Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Jeudi 2 février 2012, j'espère que vous êtes en pleine forme, car nous le sommes en pleine forme. On va vivre une soirée sportive sur RTS, comme tous les jeudis soirs. Et tout de suite, c'est le Flashport, 10 minutes pile avant le début du Motor Show, l'actualité des sports mécaniques qui nous sera présentée par mon ami Mathieu. J'accueille avec moi dans ce Flashport Xavier, que je salue. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Chris, bonsoir tout le monde. Ça va?
Bah moi je suis en super, j'ai la patate là pour dans 10 minutes. Et bien sûr, ce Flashport, vous le savez, il est consacré à l'actualité sportive. On va donc parler de cyclisme, tennis, entre autres, boxe, basket. Et je l'ai dit, football et une actualité, malheureusement, ces 24 dernières heures qu'on espère un peu joyeuses. Avec, bon, il y a la CAN, il y a la Copa del Rey en Espagne, il y a quelques événements marquants. Malheureusement, c'est un fait divers tragique qui a assombri cette actualité footballistique, Xavier.
Ouais, bah hier soir en Égypte, la rencontre Al-Masri Al-Ahly était témoin d'une soirée dramatique, une des plus tristes soirées qu'ait connu le football. Tu m'as dit que c'est pas la pire, mais bon, c'est l'une des pires, quoi. On parle actuellement de 74 morts et de 188 blessés graves. Et suite à ces incidents, d'ailleurs, il y a 4 joueurs emblématiques d'Al-Ahly qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière. Il y a le directeur de la sécurité de Port Saïd, je pense que c'était l'endroit où se déroulait le match, qui était limogé. Et le gouverneur de Port Saïd qui a démissionné, et il y a même la Fédération égyptienne de football qui a été limogée.
Ouais, et oui, exactement. Donc des décisions exemplaires, la FIFA qui va statuer. Il y a une réunion au niveau de la FIFA, l'UEFA aussi a essayé de parler, mais pour le moment, l'enquête suit son cours. Alors on va pas rentrer dans la géopolitique au sein de cette émission, vous savez que c'est une de mes passions, mais c'est pas le moment. Donc pour le moment, impossible de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ça semblerait être un mouvement de foule, donc ce serait un mouvement de foule, mais par définition pas un attentat politique ou une atteinte politique, même si cette rumeur fait surface, Xavier. C'est un événement qui évidemment rappelle des heures sombres dans le football européen, tu l'as dit. Ce n'est pas le plus meurtrier en termes de morts actuellement, puisqu'il y avait eu pire en Grande-Bretagne, on s'en vient en 89, dans un stade de foot britannique. Il y avait aussi le drame du Wesel qui avait coûté la vie à près de 40 personnes. Donc ça nous rappelle évidemment des moments tragiques, c'est dommage que le sport voit cela. Tu as sans doute des actualités un peu plus réjouissantes au niveau du football quand même.
Bah moyennement, parce que bon, hier il y avait OM Nice en Coupe de la Ligue.
Pour toi c'est pas réjouissant. Pour toi ce n'est pas réjouissant l'issue du match.
Ah non, c'est pas ça, non, au contraire. Et c'est qu'il y a des incidents aussi qui ont éclaté. Il y a 2 voitures de supporters niçois arrivées là-bas qui ont été attaquées par... une dizaine d'individus qui étaient cagoulés avec des battes de baseball, donc qui ont dégradé la voiture. Il y a eu 1 ou 2 blessés légers, et il y a même un car qui a été attaqué. Ce qui est pas drôle, mais à ce que j'ai lu, moi, c'est que dans ce car, c'était pas des ultras, c'était un peu des familles. Il y avait même un enfant de 8 ans qui était choqué. Et pendant le match, il a continué, parce que il y a la sécurité qui se met entre les deux, parce qu'ils s'envoyaient des projectiles des fumigènes. Est un policier qui a reçu un jet de pétard à l'oreille et puis un steward qui a été blessé légèrement. Donc, ouais. C'est incroyable, quoi, ça s'arrête. Ça s'était calmé, on a l'impression que ça recommence peu les incidents. Quoi.
Alors qu'on parlait justement hier justement dans l'émission Liberté pour les éditeurs, vous savez, c'est tous les mercredis soirs à 20h30 sur RTS, on parlait justement de ce climat qui pourrissait un petit peu le football. Et bien, c'est vrai que ce sont des exemples qui sont vraiment à éviter. On espère qu'en tout cas que ça va se calmer. Peut-être que le drame, la tragédie même égyptienne, faire prendre un peu conscience, même si on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Tu as d'autres infos peut-être footballistiques?
Ouais, bah je vais t'enchaîner là. Bah, le huis clos partiel justement dont on parlait hier avec le GC Nice, avec Jonathan, bah ça sera pas pour Nice PSG. Ça a été décidé pour Nice Caen finalement. La tribune sud sera donc fermée pour ce match. Seulement cette tribune. Sinon, à Auxerre aussi, un petit coucou à l'USA. Suite aux incidents de Auxerre-Nancy, la sécurité va être renforcée de 30 agents de sécurité qui viendront compléter les Seawards. Sinon, bah, Marseille donc s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue hier en battant Nice 2-1. Ils ont rejoint Lyon qui avait sorti Lorient mardi. La finale qui se déroulera le 14 avril. Une réunion aujourd'hui qui a eu lieu entre le PSG et le consortium du Stade de France. PSG Marseille du 8 avril pourrait se dérouler au Stade de France. On parle même d'un accord quasi fait, quoi. Sinon, bah, Souleymane Diawara qui est rentré de la CAN, ça y est, s'entraîne avec l'OM ce matin, donc il devrait être de la partie face à Lyon. Sinon, à la CAN, hier, le Botswana a été battu par le Mali 2-1, et le Ghana et la Guinée ont fait un partout. Donc les quarts de finale, le 4 février, on aura Zambie Soudan, et Côte d'Ivoire Guinée équatoriale, et le 5 février, Gabon Mali, et Ghana Tunisie. Sinon, dernière info, 5 matchs de national annulés déjà pour ce week-end.
Ouais.
Beauvais, Besançon, Orléans, Colmar, Quevilly, Gazaïc, d'Ajaccio, Épinal, Le Port et Survie, et New York, Créteil, et en Ligue 2, Laval, Metz et Tours, Le Havre.
Il n'y aura donc pas de match de Beauvais ce week-end, comme vous savez, RTS est la radio partenaire de l'AS Beauvaisoise, entre autres. Donc, pas de match de Beauvais. Merci, et plusieurs matchs de national. Merci Xavier pour toutes ces infos football. Je précise aussi que en Espagne, c'est un petit événement. Le Barça qui enchaîne un troisième match sans victoire. Barça qui doute, hein, un match nul, un but partout à Valence dans le cadre des demi-finales aller de la Copa del Rey, c'est-à-dire la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. À noter aussi le raté de Lionel Messi sur pénalty. Ce n'est pas le premier. Le Barça qui est un peu critiqué aussi dans la presse. Décidément, il se passe des choses du côté des Blaugrana, comme on les surnomme. Merci pour toutes ces infos. On va enchaîner. Je vous rappelle que dans quelques minutes, dans 4 à 5 minutes, il y aura le Motor Show, actualité des sports mécaniques. On va recevoir, je pense, avec un champion extraordinaire, un pilote automobile français. J'ai son palmarès sous les yeux, ça va être difficile de le faire en moins d'une minute. Bon, je prendrai ma respiration avant de le faire. Un grand, grand monsieur qui sera ce soir, donc dans quelques minutes, dans le Motor Show. Juste avant, quelques petites infos en bref, bien sûr, en cyclisme notamment, l'Allemand Marcel Kittel. Mathieu l'avait pronostiqué comme cela mardi lors de son émission cyclisme. Bah, il mène le classement général autour de Bessèges, la deuxième étape, il l'a remporté. Le Belge Chris Boekmans est second, à noter aussi la troisième et la très belle troisième place pour le moment du Français Nasser Bouhanni, qui a été vainqueur au sprint justement de la première étape. À Montpellier, huitième de finale du tournoi, en tennis bien évidemment, Nicolas Mahut a battu Florian Mayer en 2-7, victoire aussi, on l'a dit hier soir, de Gilles Simon, qui a battu l'Italien Cipolla. En Formule 1, je suppose que Mathieu en parlera tout à l'heure, Ferrari a décidé de reporter sa présentation des monoplaces de Formule 1 qui auraient dû avoir lieu demain en Italie. Vous le savez, les conditions climatiques, notamment la neige et le froid, ont donc motivé cette décision. Mathieu en reviendra en long et en large. En boxe, Angelo Dundee, qui est considéré peut-être comme le plus grand entraîneur de boxe de l'histoire, il est décédé cette nuit à l'âge de 90 ans. Il a entraîné 15 joueurs qui ont été champions du monde, un palmarès extraordinaire, et surtout Mohamed Ali pendant plus de deux décennies, pendant plus de 20 ans, il était l'entraîneur de Mohamed Ali. Tous les succès de Mohamed Ali ont un peu été les siens, c'est considéré comme un frein stratège. Il avait 40 ans de carrière, Angelo Dundee, qui est donc le plus grand entraîneur de boxe de l'histoire, qui a succombé à une crise cardiaque cette nuit à l'âge de 90 ans. On peut aussi vous signaler une info en cyclocross, puisque c'est une information importante. L'ancien double champion du monde, Stibar, va quitter la discipline en fin de saison. Il va se consacrer davantage à sa deuxième passion, qui est le cyclisme sur route. Voilà. Et aussi une autre information cyclisme, André Greipel déclare forfait pour la course du Qatar, alors qu'il partait favori de cette course en vue de son excellent début de saison. C'est le meilleur cycliste de ses débuts de saison. La cause de ce forfait, c'est un virus intestinal qui a poussé une fièvre. On imagine que c'était un contexte difficile. Avant de rendre le relais au Motor Show, une info NBA et deux surprises cette nuit. Chicago et Miami, les deux poids lourds de la conférence Est, ont tous les deux été battus. Les Bulls ont été battus à Philadelphie 98 à 82. Sévère défaite quand même. Et quant aux Heat, ils se sont inclinés 105 à 97 face aux Milwaukee. Les Milwaukee qui avaient battu au passage les Lakers ce samedi. Donc deuxième exploit d'affilée. C'est une sixième défaite pour Chicago et pour Miami. Je regarde si je n'ai éludé aucun sujet, parce que j'ai noté toutes les informations principales. Non, on n'a éludé aucun sujet. On vous a rappelé aussi les résultats en Coupe de la Ligue hier soir déjà. Donc voilà, je peux te souhaiter, Xavier, une très bonne soirée. Merci d'avoir participé avec moi.
C'était un plaisir, c'est un plaisir de venir te donner un coup de main. Puis je souhaite une bonne soirée aux auditeurs et surtout une super émission. Je vais vous écouter après.
Tout à fait. Et on va être ensemble jusque 23h avec un invité de marque. Soyez attentifs à tout de suite. Je ne vous dis même pas dans quelques minutes, je vous dis à tout de suite. Merci de votre fidélité sur RTS, bien sûr. We'll be right back. 21h, le moteur chaud dans quelques secondes. Mathieu me demande de meubler pendant quelques secondes. Il sera évidemment avec vous, avec toute son équipe. Vous le savez, tous les jeudis soirs, il est fidèle au rendez-vous. Et ce soir, on avait un invité exceptionnel, hein, puisque bon, je vais pas dire son palmarès en intégralité. Je suppose que Mathieu, qui est meilleur speakerine que moi, le fera davantage. Il a quand même remporté, il faut le dire, 10 fois le trophée Andros, ancien champion super tourisme, notamment BTCC, mais aussi en France, triple champion WTCC, champion en titre, champion récent, le dernier champion tenant du titre. Voilà donc le terme que je choisissais. Si je vous dis qu'il est né en 69 dans le Haut-Rhin, vous comprenez évidemment que c'est une particularité qui ne m'a évidemment pas échappé, moi, l'amoureux de ce genre de petites anecdotes. Donc c'est un invité de marque et de prestige que nous recevons ce soir avec Yvan Muller, puisqu'il c'est lui dont il s'agit. Nous reviendrons évidemment sur sa carrière. Nous reviendrons sur ses ambitions, sur son amour pour les monoplaces, mais aussi pour les disciplines annexes, comme par exemple les voitures de tourisme, WCC en est compris. On reviendra bien évidemment avec lui sur ses ambitions pour l'avenir, on parlera de son présent, la dernière saison dont il a fait ses preuves, encore une fois, doit-il encore faire ses preuves. On reviendra un petit peu sur la discipline, que lui inspire-t-elle, comment augmenter peut-être la notoriété de cette discipline. On parlera bien sûr avec lui des autres disciplines. S'intéresse-t-il à la Formule 1, par exemple, au rallye? Toutes ces questions et d'autres davantage seront posées et débattues durant l'émission. Je vous invite, vous, chers amis auditeurs, évidemment, si vous avez envie d'interpeller Monsieur Yvan Muller, pardon, n'hésitez pas, vous posez vos questions, vous n'hésitez bien sûr pas à évoquer vos sujets, hein, s'ils divergent de nos opinions, vous n'hésitez évidemment pas, pour la simple et bonne raison que nous n'éludons rien dans le Motor Show et tous vos débats, toutes vos questions, nous les lisons attentivement. Et vous l'avez déjà vu avec nos précédents invités, nous essayons d'en débattre avec vous. Je pense que Mathieu devrait être prêt dans quelques secondes, puisque quand même, on ne va pas être en retard ce soir. Motor Show.
Le show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe.
Fidèle au rendez-vous, comme tous les jeudis soirs, en ce jeudi 2 février 2012. Il est bien sûr à nos côtés pour commenter l'actualité des sports mécaniques et plus encore, puisque je vous ai présenté il y a quelques secondes à peine l'invité exceptionnel que nous avons l'honneur et la chance de recevoir ce soir. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir mon ami Chris et bonsoir à tous. Ben, ça va très très bien, heureux de vous retrouver en ce 2 février 2012, il est 21h04, on est un peu en retard mais on est quand même là, hein, fidèle au poste. Ça va être une émission assez particulière ce soir. On va quand même parler de la F1, des sports mécaniques en général, mais pendant cette première heure, on va tout simplement recevoir un invité assez exceptionnel, j'ai envie de dire. C'est la première fois qu'on le reçoit. Alors, on avait l'habitude d'inviter des pilotes prometteurs, des jeunes pilotes, sans lui faire offense, mais surtout pour vraiment souligner son palmarès impressionnant. Nous avons la joie de recevoir ce soir un triple champion du monde. Bonsoir Monsieur Yvan Muller.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce que ça fait d'être invité dans une émission de sport mécanique assez jeune, mais avec surtout des passionnés de ce sport-là et très impatients de pouvoir vous poser toutes nos questions.
Ouais, c'est plutôt sympathique, en plus la forme est assez rigolote. J'ai plus l'habitude des interviews en ayant mon interlocuteur en face de moi avec un micro et voilà, comme ça peut se passer dans une radio, donc là, je trouve l'idée plutôt originale.
Eh ben oui, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas vraiment encore les moyens, hein, c'est sûr, de faire un local. Mais bon, pourquoi pas dans quelques années, pourquoi pas, faire une grande radio ou un plateau de télé, ce serait notre rêve.
pour l'instant, on est encore cantonné à Internet, mais c'est plutôt très bien pour un début. Donc, pendant cette première heure, on va revenir ensemble sur tout votre palmarès, votre carrière impressionnante. Mais je ne serai pas tout seul. J'ai avec moi mes fidèles consultants qui me manquent. Enfin, chaque jeudi soir, on les quitte et je suis impatient de les retrouver le jeudi. On va commencer par mon ami Chris. Bonsoir, rebonsoir mon ami Chris.
Rebonsoir.
Est-ce que ça va du côté de la Belgique?
Alors, je suis en super forme. J'enchaîne le flashport avec mon émission préférée du jeudi soir. Donc je suis évidemment en super forme. On va parler, tu l'as dit, du passé, mais on va aussi parler du futur. C'est quand même important. Et quant à l'originalité, je précise une chose importante, l'originalité est une force, savoir se démarquer est une qualité. Donc recevons ce superbe compliment avec honneur.
Ah ben oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je reçois à mes côtés aussi mon ami qui brave le froid à Paris, Jérôme. Bonsoir Jérôme.
À Paris ça va par rapport aux autres. Bonjour à vous tous et à vous toutes.
Je n'habite pas à Mout, la ville la plus froide de France.
Non.
Je reçois aussi notre ami partenaire de PVAT 34, Showmix 35, mais il s'appelle Olivier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous et très impatient de discuter avec Yvan ce soir.
Tu n'es pas le seul, hein, je suppose. nous avons également Michel, notre ami alsacien. Comme ça, il ne sera pas tout seul ce soir. Michel, bonsoir.
Salut Mathieu, je suis très très content d'être là. Non, ce n'est pas du tout prévu. Et j'espère qu'on va bien se démerder, qu'on ne sera pas trop stressé. Et salut tout le monde, salut les auditeurs.
Pardon. Merci Michel. Et on reçoit notre ami Helvète Sébastien, gpf1.ch, notre partenaire suisse. Bonsoir, est-ce que ça va du côté du Valais?
Salut Mathieu, bonjour tout le monde. Ça va très bien en Valais, on a de la neige, il fait froid, tout est bien pour avoir une belle saison de ski. J'ai vraiment du plaisir à vous retrouver ce soir tous. Je suis un peu impressionné par notre invité de ce soir, donc on va voir comment ça donne.
messieurs, ne nous inquiétons pas, c'est un homme comme un autre, monsieur Formulaire.
Il faut pas exagérer, hein, parce que moi j'entends beaucoup palmarès exceptionnel, ça va, c'est juste un des trois plus grands pilotes automobiles de l'histoire du sport français. Faut pas exagérer quand même, voilà, c'est une plaisanterie.
C'est rien quoi.
Ouais, voilà, ça va.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, un petit point sur le palmarès de ce pilote hors du commun, hein, tout d'abord, c'est le triple champion du monde de WTCC. Sur Seat en 2008 et Chevrolet en 2010 et 2011, c'est déjà pas rien. Champion en BTCC, c'est en Grande-Bretagne en 2003, et surtout 10 fois vainqueur du trophée Andros. C'est un parcours assez inhabituel, je pense, pour Yvan Muller. On va y revenir dans quelques instants. Mais pourtant, vous avez commencé comme tout le monde en karting et en monoplace. Et alors tout d'abord, on va revenir sur le WTCC, c'est forcément votre objectif actuel. Donc première question, alors on se la pose un peu tous dans l'émission, c'est est-ce que vous prenez du plaisir dans ces courses-là? Parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais pour vraiment faire clair en fait. Non mais
c'est-à-dire que Jérôme n'est pas le plus grand fan de votre discipline, Monsieur Muller.
Voilà. Non mais c'est juste pour savoir une chose. Est-ce que au moins vous faites plaisir au volant? C'est l'essentiel, je pense.
Vous savez, évidemment, il faut avoir un minimum de plaisir quand on veut faire un métier correctement. Mais avant tout, c'est un métier en ce qui me concerne. Je fais ça maintenant depuis très longtemps et ça fait quand même assez longtemps que j'ai mis un petit peu de côté le côté passionnel pour justement être plus professionnel, parce que au niveau dans lequel nous courons, nous sommes obligés de voir les choses de cette manière-là. Mais du plaisir, il y en a, évidemment, il y en a, parce que les voitures sont intéressantes, les circuits sont intéressants, et il y a la bagarre en course. Alors, de temps en temps, effectivement, c'est un petit peu trop viril, on va dire, mais en règle générale, ça se passe quand même plutôt bien.
On parlait du côté passionnel. Moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi de savoir, c'est avec toutes ces années d'expérience, avec toutes ces années où vous avez entre guillemets roulé votre bosse, est-ce qu'on a encore le stress à ce niveau-là? Est-ce qu'on est encore stressé comme à ses débuts? Je suppose que non, mais quelle est la part du stress, de la gestion du stress dans ces moments-là? dans les moments difficiles.
C'est vrai que j'ai quand même pas mal roulé ma bosse. Je vais faire cette année ma 32e licence. Alors j'ai commencé très tôt. Je précise par le karting à l'âge de 10 ans. Et évidemment, il y a quand même moins de stress que dans le passé. Maintenant, il y a toujours autant de concentration. Je dirais que c'est très rare que je sois nerveux avant une course, mais par contre, voilà, la peur de mal faire, elle est toujours là, et il en faut. C'est ce qui donne aussi, c'est ce côté adrénaline qui rend les choses excitantes.
Et alors aussi la question au point de vue général, est-ce que vous avez l'impression que le tourisme c'est peut-être moins apprécié que la monoplace ou le rallye, peut-être l'endurance, ou c'est plutôt c'est assez différent aussi, c'est quand même très spectaculaire.
Ouais, je crois pas que ce soit une discipline qui est moins appréciée, en tout cas c'est une discipline qui est moins connue, et forcément moins connue que la Formule 1 ou le rallye, pour cause, la Formule 1 est un championnat qui existe depuis plus de 50 ans, et le rallye existe depuis, 30 ou 40 ans. Notre championnat n'a que 7 ans d'existence, et il est évident que sur le plan notoriété, on en a moins que la Formule 1 et le rallye. Maintenant, on va pas faire de classement, c'est une discipline comme une autre, une discipline où il faut être professionnel, où il y a des constructeurs qui sont engagés, et puis du moment que ça plaît à des gens, il faut respecter ça.
Et moi, je suis peut-être le plus ancien là au sein de cette radio, et je pense être le seul à avoir assisté plusieurs fois à des courses de WTCC. Certes, il y a déjà quelques années, alors que la concurrence était un peu plus rude, mais je peux vous assurer que même en étant dans les gradins, le spectacle est vraiment au rendez-vous. Les voitures sont vraiment à 1 mm les unes des autres. C'est vraiment un bonheur extraordinaire d'assister à ces courses-là.
Vous savez, je rajouterais une petite chose à ce que vous venez de dire. C'est aussi l'intérêt de cette discipline. C'est qu'il n'est pas rare, et cette année, vous pouvez regarder les feuilles de classement des qualifications, il arrive très fréquemment qu'il y ait 10 voitures dans la même seconde. Donc forcément, tout ça, une seconde pour 10 voitures, c'est propice un petit peu aux accrochages, mais en même temps, c'est ce qui rend les courses aussi excitantes à regarder, où il y a du dépassement, et c'est pas toujours le cas dans toutes les disciplines. Donc ça fait partie du jeu. Tout est fait aussi pour que les performances des voitures soient rapprochées, plus les grilles inversées, les handicaps de poids, etc. Et tout ça, c'est propice de temps en temps aux accrochages. Mais en même temps, les gens regardent un petit peu ça, les courses aussi pour ça.
Surtout qu'on a l'impression que la discipline est toujours un peu, même si ça s'est stabilisé, on peut le dire, depuis 2-3 ans, un peu en phase d'expérimentation. Parce que justement, vous l'avez dit, 7 ans, c'est relativement court dans l'histoire d'une discipline ou d'une compétition mécanique. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Mathieu. On ne parle pas de sentiment de respect ici. C'est vraiment, Yvan Muller l'a très justement souligné, c'est une question de notoriété. C'est vraiment ça qui fait la différence actuellement. Alors, est-ce que ce sont des moyens financiers? Est-ce que c'est aussi un peu de publicité? Je crois que tout est un peu lié par rapport à cela.
Je crois que c'est effectivement, comme vous dites, c'est une question de notoriété. Aujourd'hui, le WTCC est un titre de champion du monde, comme les 4 titres qui existent en sport automobile. Bon, il va y en avoir un 5e cette année. Le titre de champion du monde WTCC n'a pas la même valeur médiatique que les autres, mais elle a la même valeur sportive que les autres. Voilà. Mais après, vous savez, dans tous les sports, il y a des champions olympiques tous les 4 ans, on n'en entend jamais parler, pourtant, ce sont des grands professionnels, des grands sportifs, et qui pendant 4 ans à se préparer, et pendant 4 ans, on n'en parle pas. Mais quand ils sont champions du monde, ils sont un petit peu aux avant-postes pendant 8 jours, et ensuite on les oublie de nouveau, mais ça ne veut pas dire que leur titre n'est pas important.
Tout à fait. Je voudrais juste paraphraser et conclure là-dessus, comme ça je laisserai la place à d'autres, mais on parle de Sébastien, faisons la comparaison avec justement un autre pilote français alsacien, Sébastien Loeb. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait pu aussi classifier ou sous-classifier le WRC par rapport à la Formule 1. On s'aperçoit que les deux titres ont exactement la même valeur symbolique et respectueuse dans les sports automobiles.
Ça s'est gagné. Les deux titres de Formule 1 et de rallye, je pense que sans aucun doute, ont la même valeur sportive. mais par contre, elles n'ont pas la même valeur non plus médiatique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sébastien Loeb parce qu'il a gagné 8 titres, mais à la même échelle, on parle beaucoup plus des 8 titres, ou on parlait beaucoup plus des 7 titres qu'un Schumacher. Voilà, la FA reste quand même au-dessus parce qu'il y a plus de notoriété. Encore une fois, hein, je fais bien la différence entre la valeur médiatique et la valeur sportive. Aujourd'hui, la Formule 1 encore, la valeur sportive la plus importante devant le rallye et ensuite les autres disciplines. Mais c'est comme ça. Il faut encore une fois, c'est pas le côté médiatique qui nous fait courir.
Et alors, donc, bon, c'est sûr, mais si vous aviez eu la chance d'aller en Formule 1, à choisir entre un titre de WTCC et un titre de champion du monde de Formule 1.
Vous savez, la différence, encore une fois, entre un titre de champion du monde de Formule 1 et de rallye, c'est juste la prime à la fin de l'année. Hein, après, le plaisir et le côté satisfaction du travail bien fait, il est le même. Mais certes, pendant mon hiver aurait été certainement beaucoup plus chargé si j'étais champion du monde de Formule 1. J'aurais moins de chances d'aller skier dans vos jolies montagnes valaisannes. Mais voilà, après, sportivement, ça a pour moi en tout cas la même valeur.
Alors, est-ce que c'est pas un petit peu fatigué de défendre justement le WTCC? C'est pas une question qui revient un peu de façon récurrente?
Oui, ça revient un peu de façon récurrente, et puis bon, enfin, j'y réponds. Après, fatigué, non, je défends rien, hein. Vous savez, moi je suis content de ce que je fais, j'ai plaisir de ce que je fais. Ceux qui viennent voir un circuit, ils viennent voir un peu les paddocks et déambuler entre les camions, se rendront compte que c'est une discipline qui est juste sympa. Après, ceux qui sont pas convaincus, bah tant pis pour eux, c'est tout, c'est pas très grave.
Donc, alors moi je voulais juste terminer, je l'appelais mon réquisitoire parce que c'est vraiment pour dévoiler tous mes sentiments. Et après, bien sûr, on respecte les pilotes et les équipes et la compétition elle-même. Mais j'ai vraiment une question d'interrogation sur les circuits. Est-ce qu'il y a certains circuits qui seraient vraiment adaptés au WTCC? Parce que je vois, c'était, je crois, Shanghai. Le circuit à Shanghai, il m'a semblé que c'était pas non plus extrêmement excitant au point de vue sportif. Alors, quel serait le circuit idéal du WTCC comme par rapport à d'autres disciplines, on a un peu du mal à s'en rendre compte, quoi. C'est assez flou, quoi, je trouve.
Bon, en règle générale, les circuits du calendrier sont plutôt sympas. C'est vrai que celui de Shanghai en 2011 n'était pas très adapté à un championnat du monde. Malheureusement, c'était prévu qu'on aille sur un autre circuit. Au dernier moment, il y a eu un souci politique qui a obligé les promoteurs de se retourner sur ce circuit-là. Enfin, voilà. Pour nous, en tout cas, sportivement, c'était pas très intéressant. Les spectateurs, par contre, qui étaient sur place, ont trouvé ça sympa. Donc, l'un dans l'autre, voilà, il y a une moyenne. Après, les autres circuits du championnat, il y a des circuits juste extraordinaires, comme celui, évidemment, de Macao. On va trois fois en ville dans la saison avec Macao, Porto et un troisième que j'oublie, qui va me revenir. Mais on fait des circuits comme Mistoril, comme Zolder, des circuits qui sont mythiques, on fait Monza, qui est un circuit par contre pour nos voitures peut-être un peu grand, mais il y a le côté mythique de Monza. Non, c'est un beau championnat, on va sur 5 continents différents. Voilà, et puis cette année on a des nouvelles dates comme les États-Unis qui se rajoutent au calendrier. Il y a l'Autriche aussi qui arrive dans le championnat. Voilà, chaque année il y a un petit peu son lot de nouveautés.
Et justement sur le chat, il y a un circuit qui revient, qui est revenu déjà 2-3 fois. C'est Macao. Il est vraiment sympa. On nous dit donc qu'il est joli à regarder. C'est un très beau camp à regarder. Et niveau conduite, c'est vraiment sympathique de conduire sur le circuit de Macao.
À Macao, c'est vraiment un circuit à part. Macao fait partie des circuits exceptionnels qui sont très exigeants, très difficiles. On est tous contents de faire un Macao par an. On voudrait pas que ce soit tous les week-ends non plus parce que on y laisse certainement quelques cheveux quand on y va parce que c'est très stressant. En plus, c'est toujours la dernière course du championnat et le championnat se joue là-bas. Donc, jouer un titre sur un circuit tel que Macao où c'est la vitesse de pointe la plus rapide de l'année, où les rails sont vraiment à proximité et la moindre erreur, c'est une sortie de route qui peut mal finir. Donc c'est vraiment beaucoup de tension pendant toute cette semaine à Macao. Mais en même temps, on est ravis d'y aller. Encore une fois, c'est bien qu'il n'y en ait qu'une par an.
Alors maintenant, justement, on va revenir sur la saison 2011 qui s'est achevée par un troisième titre. Donc tout d'abord, félicitations, hein, c'était vraiment une saison assez excitante. Alors tout d'abord, elle est assez simple à résumer. Roboeuf, à partir jusqu'à la mi-saison, était largement devant. Et après, vous êtes vraiment remonté derrière. Vous avez donc pris le titre lors de la dernière manche. Comment ça a été vécu à l'intérieur dans cette équipe? Il y avait forcément de la tension, il y a eu des accrochages. C'est clair, ça ne devait pas être le sourire hein, tous les jours. Ça devait être vraiment quelque chose d'assez spécial hein, dans l'équipe.
C'est vrai, c'est toujours particulier de se battre pour le titre avec un de ses équipiers. Et pour cause, il a la même voiture, avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Donc évidemment, c'est assez délicat. Et il y a eu des moments forts dans la saison, mais ça fait partie du sport aussi. Alors c'est vrai que Rob avait bien démarré la saison, moi j'avais plutôt mal démarré. On s'était mis un petit peu trop la pression au départ avec mon ingénieur, puis on a su redresser la barre, on a su se remettre en question, revenir au point, puis dépasser Rob et ensuite garder notre avance qu'on avait réussi à avoir pendant l'été jusqu'à la fin de l'année et pour pouvoir remporter ce troisième titre.
Et c'est vrai, et bon, donc on a vraiment l'ultra domination de Chevrolet. Est-ce que ça n'a pas manqué de concurrence au niveau constructeur ou pas, enfin, selon vous, malgré que forcément le plaisir est immense de se battre face aux coéquipiers, ça?
Vous savez, j'entends souvent, et à tort je pense, ouais, le championnat cette année a été écrasé par Chevrolet, il n'y avait pas de concurrence. Je pense que ça n'a pas été le cas. Ça peut donner ce sentiment-là parce qu'effectivement, on finit 1, 2 et 3, mais c'est aussi parce que Chevrolet a vraiment travaillé de façon ardue. C'est Chevrolet qui a passé le plus de temps en test, qui a fait le plus de développement. Enfin, ça fait quand même très longtemps que Chevrolet tourne autour de cela, et puis il y a toujours des périodes où un constructeur domine. Il y a 3 ou 4 ans, c'était Seat qui dominait tout. Cette année, c'est Chevrolet. Il y a encore quelques années, c'était BMW. Voilà. La concurrence, elle était là, sans aucun doute. Mais effectivement, les 3 premières places étaient prônées par 3 voitures bleues. Mais la concurrence était là, sans aucun doute.
Est-ce que vous pensez que, pour revenir sur le sujet, au sein de Chevrolet, la gestion des 3 pilotes a été correcte tout au long de la saison?
Vous savez, j'étais encore hier en Angleterre et justement, on a fait un petit meeting avec mon chef d'écurie et on a passé 2 heures à discuter sur justement cette saison 2011. Et puis finalement, on en a déduit que ça s'est quand même pas trop mal passé vu les circonstances, encore une fois, où on est 3 pilotes avec les dents longues, 3 pilotes à jouer le titre, forcément il y a des tensions. Et puis finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Il y a eu des échauffourées, on s'est un peu énervé les uns sur les autres, mais encore une fois, ça s'est quand même assez naturel vu les tensions que le titre pouvait donner. Et puis finalement. Voilà, vous savez, moi j'ai passé là pendant 2 jours en Angleterre et j'ai passé mes 2 dîners que j'étais en Angleterre avec Roboeuf et de façon très amicale. Donc il y a vraiment aucun souci. On sait aussi faire la différence entre le côté sportif et le côté privé.
C'est sûr que c'est très important, effectivement. Est-ce que Jérôme, tu as des questions sur le chat?
Justement, on parle des relations entre pilotes. Le WTCC, donc vous nous l'avez dit, c'est un peu une grande famille. Et justement, quel est le pilote avec lequel, c'est une question de Espagne 96, le pilote avec lequel vous vous entendez le mieux au sein du paddock?
Je crois que mes périodes, mes 3 ou 4 saisons chez les jeunes, on crée quand même quelques liens avec certains pilotes, dont Gabriel Tarquini et Thiago Montero. Avec qui je parle régulièrement, avec qui il y a beaucoup de respect entre nous. Et puis on va effectivement sur les circuits très régulièrement dîner ensemble. On aime passer du temps ensemble.
Un autre sur le chat, Jérôme?
D'autres questions, mais qui reviendront plus tard.
Et au sein de Chevrolet, entre Alain Menu et Robert Orff?
Oh, c'est pareil. Ce sont deux garçons avec des caractères différents. Moi, je passe pas mal de temps, en tout cas en voyage, parce qu'on part souvent du même endroit avec Alain Menu. J'aime bien parfois sa façon de penser. Rob est un garçon qui est plus jeune, qui est pas tout à fait de notre génération, mais j'aime bien aussi passer du temps avec eux. Honnêtement, j'irai avec aucun de tous les pilotes parce que un pilote en vacances ça suffit, donc j'irai pas en vacances. mais en tout cas, passer un petit peu de temps avec eux, avec plaisir.
Je voudrais pas insister, poser des questions désagréables sur le sujet, mais pour moi, il y a une image quand même de cette saison WTCC qui reste vraiment marquée. C'est la fameuse chicane qui a été coupée pour prendre la tête. Je sais plus à quelle course c'était de Robert.
C'était à Porto.
C'était à Porto. Et c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure. Est-ce que quand on est dans cette position de leader, on se fait passer en court-circuitant la chicane. Est-ce qu'on n'attend pas de la part des dirigeants de l'écurie, justement, une réaction, puisqu'elle ne vient pas du point de vue de la direction de course?
C'est peut-être ça le plus gros problème, d'ailleurs, que ça ne vienne pas de la direction de course, en amont.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Honnêtement, quand je me suis fait doubler, effectivement, par Rob qui a court-circuité la chicane, instantanément, je me suis dit, bon, il va lever le pied, il va me relaisser passer. Et puis, à ma grande surprise, il ne l'a pas fait. On pourrait effectivement, éventuellement, attendre de l'écurie qui dise à Rob, attention, ce que tu as fait, c'est interdit, tu risques d'avoir une grosse pénalité et tu devrais lever le pied et le relâcher passer, Yvan. Bon, ils ne l'ont pas fait. Après, vous savez, c'est très facile de tirer maintenant, mais quand on est dans le feu de l'action,
ah oui.
Avec le stress que tout ça procure, il faut prendre une décision très rapide. Et ils ont réfléchi pendant, ça a duré moins d'un tour, et pendant ce tour-là, normalement, si la direction de course avait joué son rôle, ils auraient dû mettre une sanction, ou en tout cas, parce que chaque stand a une télévision, et ils auraient dû mettre, voilà, Robeuf devrait ralentir, l'écurie doit passer le message, et ils ne l'ont pas fait. Donc à partir de là, l'écurie n'a pas à jouer, à servir d'arbitre, puisque la direction de course n'y voyait rien de mal. Donc ouais. Pourquoi l'écurie devrait le faire?
Donc pour la fête des ménages.
Ouais, effectivement. Je suis d'accord. On a eu la discussion et pour la fête des ménages, ils auraient dû faire. Bon, ils l'ont pas fait. Ça a été une erreur. Mais vous savez, après dans la saison, les choses s'équilibrent. Et la course d'après, ça a été le cas inverse, où j'ai doublé Rob en le poussant un petit peu, et puis voilà, un coup c'est lui qui gagne, un coup c'est moi qui gagne, et puis voilà, ça s'équilibre au bout du compte.
Yvan Muller, on avait déjà évoqué, on l'a déjà évoqué il y a quelques secondes, peut-être le rapport que vous avez, vous pilote, mais vos collègues aussi, que vous avez avec les dirigeants de la WTCC. On sait notamment que bon, il y a eu le système des qualifications qui n'avait pas été du tout apprécié en 2011, ils ont changé ça, c'est un système un peu plus complexe mais qui a l'air d'être apprécié par les pilotes. Quels sont vos rapports avec les dirigeants WTCC? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous sentez que votre voix a de l'importance à leur égard?
Oui, je pense, parce que les dirigeants du WTCC se rendent bien compte qu'on n'est pas non plus des jeunes premiers, qu'on a quand même, comme vous disiez, roulé notre bosse et qu'on a vu quand même pas mal de choses, et que généralement, quand on fait des remarques, on dit pas que des conneries. Donc ça peut leur apporter quelque chose, et il est pas rare que le directeur de course, notamment en termes de sécurité, vienne nous voir et nous consulter pour savoir s'il y a des choses à modifier sur les circuits, en particulier les nouveaux circuits du championnat. Donc il arrive fréquemment qu'on vienne nous consulter pour ça. Après, parfois, voilà, il y a des erreurs, mais c'est vrai que cette qualification très 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 bête, je dirais, pour être poli, ça c'était pas une grande réussite.
Elle a fait l'unanimité contre elle, faut le préciser quand même. Hein.
Pardon ?
Elle a fait l'unanimité contre elle, ça c'est quand même extraordinaire, je trouve.
Ah non, mais ça, on pouvait pas être d'accord. On pouvait pas être d'accord. Je pense que ceux qui l'avaient voté, ils l'avaient pas compris, la règle. Sinon, ils l'auraient pas voté. Mais voilà, ça arrive, ça arrive. Ça a mis du piment aussi pendant la saison. Ça fait partie, là aussi, des choses. Cette année, les choses reviennent dans l'ordre. On revient plus à quelque chose de où la performance sera plus importante. Et puis c'est tant mieux.
Vous pouvez nous détailler un peu donc, le changement de règlement pour 2012 pour être
je vais essayer de vous la faire courte, plus précise possible.
En résumé,
en fait, il va y avoir une Q1, donc une qualif, une première qualif de 20 minutes, où là, on va prendre les 12 premiers. Les 12 premiers vont passer dans la qualif 2, que les 12 premiers. Et ceux qui seront passés en qualif 2, on recommence tout à zéro. Et le classement de la qualif 2, donc le premier est parti en pole et ainsi de suite jusqu'au 12e, mais les 5 premiers chronos prendront des points. Et pour la grille de départ, c'est là que ça se complique, pour la course 2, on prendra non pas les 12 premiers, mais les 10 premiers de la Q2, et on fera une grille inversée. Celui qui est donc 10e de la Q2 partira en pole position pour la deuxième course.
Pardonnez-moi,
comme ça, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a en tête,
Non, mais surtout, on peut l'expliquer. Pourquoi les 10 et pas les 12 premiers? J'imagine, alors c'est une question un peu naïve, mais j'imagine que c'est pour garder l'attrait de la Q2 parmi les pilotes, pour pas qu'on la boycotte, non?
Absolument, ouais. Bravo. C'est pour que justement il n'y ait pas des petits malins qui se disent je vais rester au stand.
Exactement.
Et je vais finir 12e, comme ça je serai en pole pour la deuxième. Donc il y a deux attraits. Le premier point, c'est de donner des points aux 5 premiers chronos, donc ça sera important de jouer la pole position. Et ensuite, tout le monde sera obligé d'aller en piste, parce que celui qui sera 10e, certes, sera en pole, mais celui qui sera 11e, il partira 11e. Donc, il pourra pas trop jouer non plus.
Et Mathieu, on peut dire même que c'est la seule différence qu'on pourrait comparer si on regarde à la Formule 1. Ça a l'air même plus simple que ce qui se passe en Formule 1. J'ajoute, puisque je t'interromps Mathieu, mais que les auditeurs, ils sont d'habitude beaucoup plus bavards. On a reçu beaucoup d'invités, mais ils sont peut-être intimidés, monsieur Yvan Muller. Hein, c'est peut-être votre présence.
Il n'y a pas de quoi,
ils sont intimidés. Vous pouvez évidemment poser vos questions sur le chat ou sur la page de notre réseau social qui commence célèbre, qui commence par un F. N'hésitez évidemment pas dans notre page à poser des questions à notre invité du soir. Et on pourrait même dire, peut-être faire un parallélisme, Mathieu, que cette règle-là, justement, ce serait utile qu'on puisse l'appliquer, notamment à la Formule 1. Je boucle ma parenthèse. Parce que justement, en Q3, là c'est la Q3, Yvan Muller, je ne sais pas si vous suivez un peu la Formule 1, j'imagine que oui. En Q3, il y a des petits malins qui se disent, on va un peu préserver les pneus, et justement, qui ne roulent pas, donc ils sont pas à 10 à rouler la dernière partie des qualifications. Vous voyez qu'on critique parfois WTCC, ils ont des idées génial par moment.
Vous savez, en même temps, je crois que il faut juste pas vouloir regarder une compétition d'F1, un rallye, une WTCC, une course de moto de la même manière. Chaque discipline a ses particularités et il faut regarder les grands prix d'F1 avec sa particularité, un grand prix moto par exemple avec la sienne. Il faut pas vouloir juger, il y a rien ni personne n'est parfait. Après, à un moment donné, il faut juste on peut toujours polémiquer, mais soyons un peu moins français et voyons plutôt le côté positif que le négatif.
C'est une belle parole. Soyons un peu moins français, vous pouvez pas dire ça à moi parce que je le suis pas, mais je trouvais ce parallélisme intéressant et vous avez totalement raison, je pense que ça sert à rien certaines fois de comparer. On compare toujours de toute façon les disciplines entre elles. Mais quelque part, je trouvais l'idée un petit peu de préserver l'intérêt lors de la dernière partie des qualifications. Je trouvais qu'on pouvait peut-être, en tout cas c'est mon sentiment, transporter cette idée en Formule 1. C'était le but de mon propos.
Ouais, mais en même temps, je comprends, il y a des pilotes qui s'attendaient pas à être dans le top 10. Et après, une fois qu'ils sont au top 10, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc, stratégiquement parlant, je les comprends, ils préfèrent rester dans les stands. Ce qui fait que ça va rendre la course un peu plus intéressante, parce qu'ils vont partir peut-être 10e, mais avec des pneus un peu plus frais, et puis ça va rajouter un petit peu de spectacle. Donc, après ça fait partie de la stratégie, et la stratégie c'est aussi de la compétition.
On parle et je vais peut-être en profiter, ça va donner un bon enchaînement, on parle justement des différentes disciplines. Moi j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le site d'Yvan Muller qui a été postée sur sur le réseau social et j'ai vu un pilote de rallye qui passait quand même ses virages à la façon trophée Andros. C'était plutôt impressionnant. Est-ce que le trophée Andros s'est terminé ce week-end? Est-ce que je peux avoir
un... on va en parler dans quelques instants.
Pardon, excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. En fait, je voulais conclure sur WTCC, et après on va enchaîner sur... Enfin, on va reculer dans la carrière d'Ivan Muller, mais...
On parlera du futur aussi, après.
Oui, non, mais d'abord, on va terminer sur le tourisme. Donc, un dernier mot. Donc, pour le calendrier 2012, n'apparaît pas la France. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on ne veut pas de meeting en WTCC en France?
Je connais pas les raisons précises, mais j'imagine qu'elles sont économiques. C'est vrai que depuis que Pau n'est plus au calendrier, on n'a pas fait de course en France. C'est dommage, c'est bien dommage. À un moment donné, il devait y avoir éventuellement la course du Mans au calendrier, donc le circuit Bugatti. Malheureusement, il ne trouvait pas une date qui correspondait à tout le monde entre le calendrier WTCC, les 24 heures du Mans, moto, voiture, etc. Donc ça ne s'est pas fait. Et puis après, je pense qu'effectivement, il y a le côté économique qui doit rentrer en ligne de compte.
Et alors, donc c'est dans un mois le départ à Monza. Où en êtes-vous dans la préparation?
Ben, on a pas mal avancé, on a pas vraiment arrêté, si ce n'est entre Noël et Nouvel An, sinon toute l'équipe est restée à l'usine pendant ces deux mois à travailler d'arrache-pied. Moi j'ai fait un siège hier à l'écurie en Angleterre, on est en test mardi à Valencia, et puis ensuite bon il y a quelques présentations presse, etc. Et puis, il restera une journée d'essai juste avant Monza, le jeudi avant Monza. Et puis, ça sera reparti pour une nouvelle saison.
Donc, la première manche, le 10 et 11 mars à Monza, en Italie. Et alors, pour conclure sur WTCC, Ivan Muller, grandissime favori 2012 pour supplanter Andy Priot au palmarès.
Oh, je sais pas, peut-être.
On peut se mouiller.
Pardon ?
Enfin, on peut se mouiller.
Non, mais vous savez, il y a beaucoup de pilotes en début de saison. Ouais, cette année, je vais gagner, je suis motivé, c'est là. Non, moi, toutes mes saisons, j'ai toujours fait de la même manière. Je continuerai comme ça. C'est-à-dire que je démarre une saison en essayant de faire mon travail le mieux possible, et puis on verra le résultat qu'il en adviendra. Ceci dit, depuis 6 années que je suis dans le championnat du monde, j'ai fait 5 fois dans le top 2. Oui. Donc, a priori, mes taux n'est pas si mal.
Ouais, la plus mauvaise position, c'était 2 fois 2e, hein. Il faut le rappeler.
Ouais, non, la toute première saison, j'ai fini 4e, oui. Parce que je me suis un peu bagarré bêtement pendant la mi-saison avec mon ami italien, avec qui on a perdu beaucoup de points un peu bêtement. Et puis à partir de là, effectivement, j'ai fait 2e au premier.
Bon, bah, c'est une carrière riche en tourisme, et donc je rappelle un titre en BTCC, le championnat britannique. Le super tourisme en 2003 sur Vauxhall.
Et en 95, je crois, c'était en 95, je suis plus sûr de la date maintenant, mais champion de France de super tourisme aussi, il faut le rappeler.
Absolument, c'était mes débuts en voiture de tourisme en 95. Ouais.
Et alors, pour avoir une belle transition avec Sébastien sur le trophée Andros, alors vous avez un peu une carrière assez originale par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui vous a fait faire? Pourquoi vous êtes-vous dit je vais plutôt préférer le tourisme par rapport à la monoplace, ou enfin vous n'avez peut-être pas le choix, mais on vous a peut-être déjà posé la question, hein, ça se pourrait bien. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le tourisme?
Effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai commencé par le karting, ensuite j'ai fait une carrière en monoplace en passant par la Formule Renault, la Formule 3, j'ai fait une saison de Formule 3000 anglaise, et puis ensuite la Formule 3000 européenne. Avec un tout petit budget qui nous a pas permis de faire de grands résultats, on a fini 2 courses, malgré tout 2 courses dans les points, et toutes les autres on est tombé en panne. Donc ça c'était en fin 93, et pour moi tout allait s'arrêter parce que j'avais plus la possibilité de continuer, jusqu'à ce que pendant l'hiver 93 et 94 il y a eu Hugues de Chonac qui cherchait un pilote pour mettre au volant de sa deuxième voiture de super tourisme, et m'a mis à l'essai. Il nous a convoqués, on était une quinzaine de pilotes, conviés à venir faire un test au circuit du Castellet, Et puis là, bah, il en a choisi un, et par bonheur, c'était moi. Donc, ma carrière de tourisme et de pilote, surtout professionnel, a démarré à ce moment-là.
Et alors, parallèlement au tourisme, à noter donc un palmarès exceptionnel en trophée Andros, 10 fois vainqueur. Bah, moi personnellement, c'est là où j'ai connu Yvan Muller en trophée Andros. Hein, c'est sûr, c'est votre domaine de prédilection avec le tourisme. Alors, Sébastien, je te laisse enchaîner sur le trophée Andros. Tu as carte blanche là-dessus.
Le trophée Andros, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de voir Yvan courir aux 24 heures de Chamonix, puisque c'est pas très loin de chez moi, c'est assez impressionnant. Le palmarès du trophée Andros, est-ce que ça, c'est une page particulière de votre carrière ou pas spécialement?
Bon, forcément, c'est une page particulière parce que c'est une discipline dans laquelle je me considérais pas comme un pilote doué. J'y suis arrivé vraiment par hasard, encore une fois, par l'intermédiaire du de Chonin qui avait aussi à l'époque une voiture sur glace et il cherchait un pilote. Et quand il me l'avait proposé, j'avais même refusé à sa première proposition parce que je lui avais dit non, je suis pas capable, moi je suis un pistard. Et ce genre de choses, c'est pas pour moi. Il m'a obligé d'y aller et j'ai bien dû me mettre au travail et a priori, je l'ai fait plutôt pas mal. Et forcément, j'ai passé 11 hivers à parcourir les stations de sport d'hiver pour aller faire des courses sur glace. Voilà, j'ai pas eu que du plaisir à le faire. Il y en a toujours eu quand on était dans la voiture. En dehors, ça a été parfois un peu plus compliqué.
Et qu'est-ce qui s'est passé en 2003?
En 2003, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Rappelez-moi.
Ben, en 2003, c'est la seule année où vous n'avez pas été champion du trophée Andros.
Ah, mais c'est normal, c'est l'année que j'ai pas roulé.
Ah, d'accord.
Il avait pas, en fait, vous n'aviez pas reçu votre licence cette année-là, me semble-t-il, non?
Si, non, il n'y avait pas de problème. Non, c'est parce que il n'y avait plus de constructeurs, j'avais envie de faire un break, j'avais fait qu'une course sur glace, en tout cas, cette année-là, c'était les 24 heures de Chamonix que j'avais gagné avec mon équipier, mais j'avais pas fait le trophée Andros cette année-là. Donc en fait, les 10 dernières participations auxquelles j'ai pris le départ au trophée, je les ai gagnées. Mais effectivement, 2003, je crois que c'est Marcel Tarès qui doit gagner, mais cette année-là, j'ai pas couru.
On se souvient que vous avez quitté le trophée Andros un peu, de façon quand même un petit peu amère, je m'en souviens bien. Ce qui s'est passé cette année, vous avez suivi un petit peu, est-ce que c'est un peu de la même trempe?
Tu peux rappeler les faits aussi que j'avais
forcément parlé
de cette année?
Oui, rappeler les faits pour les auditeurs, Sébastien.
Oui, alors en fait, cette année, on avait une dernière manche du trophée Andros avec 3 vainqueurs potentiels. Et lors de la dernière course, enfin, au trophée Andros, vraiment, une des choses les plus importantes, c'est de faire un temps aux essais, au niveau points, au niveau comptable, c'est ce qui compte le plus. Et Alain Prost avait réussi vraiment une très très bonne opération. Il n'avait plus qu'en gros à assurer sur la course, sur la dernière finale. Et dans le premier virage, il y a eu un accrochage avec Jacques Villeneuve. Et la direction de course a décidé probablement à juste titre de mettre un drapeau rouge. Donc la course a été interrompue. Mais ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est que la course a repris qu'une fois qu'Alain Prost a pu réparer sa voiture et il a pu repartir en pole position.
Alors, pour rappeler que réparer la voiture, c'est pas interdit, il me semble, hein, c'est ça? C'est ça le nœud du problème?
Alors, aujourd'hui, la Fédération française pour automobile a donné des explications en évoquant un règlement qui... C'est assez difficile à se faire vraiment une idée propre, mais quand même, c'est quelque chose qui s'est jamais vu dans le sport automobile, à ma connaissance. Un abandon, on répare la voiture, on laisse au concurrent le temps de réparer sa voiture pour qu'il puisse prendre le départ. J'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus.
Et juste pour en finir, Sébastien, et le règlement dit que celui qui est fautif sur le drapeau rouge doit repartir dernier. Comme en Formule 1.
Oui, c'est ça qui a énervé, c'est la rétrogradation de Villeneuve aussi, je crois.
Villeneuve devait rester à sa place et Prost en dernière position, alors que Prost a récupéré la pole et Villeneuve dernier.
Alors, Yvan, un petit mot là-dessus, donc.
Alors, je vous avoue que je suis pas trop les courses sur glace, mais évidemment, l'épisode de la dernière épreuve, c'est difficile de le louper parce que ça a fait couler pas mal d'encre ces derniers jours. Alors, ce qui s'est passé à la Superbest, c'est pas exceptionnel, en tout cas au trophée, parce que c'est arrivé maintes et maintes fois au trophée, et souvent en faveur du même. C'est pas, j'ai des exemples, j'en ai l'état. Maintenant, le règlement, moi je vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, je vais juste vous dire effectivement le règlement, et vous l'avez dit, celui qui cause le trophée, le drapeau rouge, doit repartir dernier. Alors il a le droit de réparer éventuellement dans un certain laps de temps, et en aucun cas il peut retourner à son camion pour aller réparer, il doit réparer sur les pistes avec les outils qu'il a sur place. Et il doit en tout cas partir dernier. Là par contre, j'arrive pas à comprendre comment on a fait partir Prost à sa place et comment on a fait partir Villeneuve dernier. Voilà, mais en même temps, ça ne m'étonne pas beaucoup.
Allez, bon, bah, le temps nous est compté. On va commencer par Jérôme avec les questions du chat. Elles sont nombreuses, je pense.
Et là, sur le passé.
Bah, là, je pense que c'est le moment où on va parler un peu de tout parce qu'on commence à avoir la fin.
Alors, trophée en rose, Sébastien posait la question qui revenait le plus sur le chat. Donc, on va un peu parler du futur. Avec, par exemple, SN96 toujours, lui, qui demande ce que vous pensez, si vous avez surtout reçu des propositions pour participer, par exemple, à des épreuves d'endurance, telles que les 24 heures du Mans cette année, pourquoi pas chez Corvette, comme l'avait proposé Alex de F1 en continu.
Oui, alors effectivement, j'ai des propositions chaque année, plus ou moins intéressantes. J'ai déjà participé aux 24 heures à deux reprises. C'est une course qui est sympathique et je suis content d'avoir fait. Après, c'est pas une course que je recherche particulièrement. Mon calendrier est déjà très chargé. Le Mans prend pas mal de temps. Alors, il y a déjà la semaine de la course, mais il y a tous les essais avant, qui prennent du temps, donc c'est délicat de pouvoir le faire, et si je veux le faire, ben, je veux le faire dans de bonnes conditions, et je veux pas mettre en péril, moi je relève mon gage pour que je sois au top, et je veux pas non plus, par les 24 heures, hypothéquer mes chances de championnat WTCC. Donc, je reçois régulièrement des propositions, mais que je refuse chacun.
D'accord. Michel
Olivier,
pardon.
Ouais, j'ai cru lire quelque part comme quoi Audi vous auriez peut-être engagé au début des années 2000 quand ils étaient en train de gagner. Est-ce que c'est vrai?
Bah, mieux que ça, ils m'avaient engagé. Ils m'avaient engagé parce que je courais chez Audi en super tourisme. J'ai commencé par l'Italie, puis l'Allemagne, et puis ensuite l'Angleterre. Le programme tourisme s'est arrêté. Au profit du prototype et de 24 heures du Mans. À savoir que le proto au départ qui s'appelait R8 qui roulait au Mans, moi j'ai roulé en essai privé pendant les deux années qui précédaient la première apparition de cette voiture 24 heures du Mans, mais de façon très secrète, avec des voitures qui n'étaient absolument pas aux couleurs de la marque. Et puis je devais effectivement participer à la première édition avec cette voiture. Sauf que c'était une période où je faisais beaucoup trop de choses, puisque je démarrais une nouvelle collaboration avec Vauxhall. Pendant l'hiver, on faisait beaucoup d'essais en Afrique du Sud. Je rentrais le jeudi soir pour aller faire des courses sur glace. Et puis, quand j'avais un petit peu de temps, je faisais des essais de 24 heures avec Audi au circuit du Castellet et autres. Donc, autant vous dire qu'à un moment donné, je savais plus vraiment où j'étais. Trois programmes importants, ça faisait trop, et il a fallu que j'en élimine un. Et j'ai éliminé celui-ci.
Et justement, vous n'êtes pas trop déçu après ce qu'Audi a tout remporté pendant cette période-là? Vous n'êtes pas trop déçu d'avoir loupé cette...
Non, mais vous savez, en même temps, si j'avais fait une carrière chez eux, j'aurais pas fait autre chose. J'aurais peut-être certainement pas continué en tourisme, et j'aurais peut-être pas mes titres de champion du monde. Voilà, c'était une décision qui n'était peut-être pas la meilleure de ma carrière, mais en même temps, il ne faut pas regretter. Je pense avoir fait en même temps à côté de belles choses.
Et alors là, ben maintenant, la question d'Alex sur le chat, c'est après le WTCC, qu'est-ce que vous voudriez faire?
Ouh, ça va être difficile. On pose souvent la question.
Oui, et alors, juste parce que vous répondez souvent à la question, Et vous me faites penser à mon actrice préférée, Annie Girardot, en gros, parce que la réponse que... Non, parce que on lui a posé...
J'ai peur de la comparaison.
Non, parce que on lui a posé la question pendant... beaucoup plus longtemps que vous, on lui a posé la question pendant 40 ans, quand allez-vous arrêter? Et elle a dit, tant qu'on me demande, je continue. C'est un peu ça que vous répondez à toutes les interviews que j'ai pu voir.
Effectivement, moi, quand j'estime que je suis performant, que j'ai la sensation de pouvoir continuer à progresser et que des constructeurs souhaitent m'engager, pourquoi s'arrêter? Il n'y a pas de raison. Après, dans quelle discipline? Aujourd'hui, moi, je me sens plutôt bien en WTCC. Je pense avoir fait dans ma carrière déjà beaucoup de choses très différentes. Hein, j'ai même fait du rallye raid, ouais. Je fais occasionnellement du rallye.
Pour le plaisir, vous avez
dit. Je fais des piges en Australie, etc. Donc là, voilà, moi ça me va bien, WTCC, c'est un titre mondial, ce sont des belles voitures. Aujourd'hui, honnêtement, si ça s'arrêtait, si je devais choisir autre chose, je ne sais pas trop. Peut-être l'Australie, le V8 Supercar.
C'est clair que c'est des paysages radicalement différents de ce qu'on peut voir ici. Mais et c'est vrai que oui, vous avez participé au Rallye de France en Alsace en l'an dernier et en 2010. Un petit avis là-dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement?
Oh ben, pour moi, c'est un petit peu ma récréation de l'année. Le rallye se déroule en Alsace, c'est ma région natale. Donc c'est pour ça que il y a deux ans, quand j'ai appris que le Rallye de France allait se faire en Alsace, j'ai dit il faut que j'y participe, ça va être une belle fête et je veux faire partie de la fête. Donc c'est un programme qui est un peu délicat à monter parce que je fais ça de façon très humble et amateur parce que voilà, je me remets à la quête de budget pour pouvoir le faire et ça me prend pas mal de temps. Mais je me régale parce que c'est une vraie ferveur en Alsace. Évidemment, le fait que l'Aube soit là, ça aide bien, mais il y a quand même énormément de spectateurs tout au long des spéciales et tout au long des liaisons, et c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, c'est quelque chose de sympathique. Et nous, en circuit, on n'a pas forcément l'habitude de ça. On est quand même un peu plus éloigné du public, et là, en rallye, il y a une communion qui se fait, qui est sympa.
Vous êtes juste notre Michel Vaillant, quoi, c'est vrai.
Et justement, toutes ces activités, Chevrolet n'est pas réticent. Vous laissez partir, par exemple, sur des rallyes. On voit qu'en Formule 1, par exemple, de plus en plus de constructeurs sont réticents à laisser leurs pilotes s'aventurer dans notre discipline. Vous, Chevrolet, vous laissez libre ce sujet.
Il est évident, depuis la mésaventure de Kubica, ça a refroidi beaucoup de monde.
On a une anecdote là-dessus.
Chevrolet ont bien compris mon besoin de faire quelque chose chaque année différent. Donc, évidemment, si c'était un programme complet, comme là, par exemple, on m'avait proposé un volant sur la glace pendant l'hiver, ça, évidemment, ils sont pas très chauds, et encore, si j'avais insisté, ils m'auraient laissé faire. Mais, voilà, le Rallye France, ils savent que c'est quelque chose auquel je tiens. Évidemment, ils pourraient tout à fait m'en empêcher, me l'interdire. Maintenant, ils savent que j'ai besoin de ça et que en même temps, mes résultats que je leur donne me donnent quelques passes droits à ce niveau-là.
Moi, j'aimerais juste rebondir sur le V8 Supercar en Australie, parce que vous avez semblé être plusieurs pilotes à être complètement attirés par cette série. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils savent faire de mieux que nous en Europe pour avoir cet engouement qu'on connaît pas ici.
Ouais, c'est un beau championnat, avec évidemment des belles autos aussi, mais surtout ils ont le côté spectacle que nous avons pas encore chez nous en Europe. Ça peut peut-être changer, je l'espère, mais ils sont un petit peu à mi-chemin entre ce que les Américains savent faire et puis avec la technique un petit peu des Européens. C'est un beau championnat géré par des gens compétents et qui attire beaucoup de spectateurs et beaucoup de téléspectateurs. En plus, ils ont des circuits mythiques comme celui de Bathurst avec ses 1000 km de Bathurst qui est une course absolument incroyable et peut-être bien avec Macao, ça fait partie du top 2 des circuits les plus étonnants sur lesquels j'ai eu à piloter. Voilà, je crois que c'est un ensemble de choses qui fait que c'est plutôt sympa.
puis le fait que ce soit en Australie, c'est un peu aux antipodes de chez nous, la mentalité, la façon de voir les choses est très différente aussi.
C'est vraiment vous qui souhaitez aller là-bas ou vous êtes envoyé par Chevrolet?
Non, Chevrolet m'y envoie pas. À la limite, si j'y vais pas, ils préfèrent. Ceci dit, j'y suis pas allé l'année dernière et j'irai certainement pas cette année non plus parce que je veux un petit peu lever le pied. Et ça prend là aussi beaucoup de temps. Mais les 1000 km de batteur, j'ai dû les faire 4 ou 5 fois. Pareil pour Surfer Paradise et Sandown, les 500 km. C'est pareil. Vous savez, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses différentes et c'est ce qui me permet aussi d'avoir résisté et duré aussi longtemps et d'être encore là aujourd'hui après de nombreuses années de carrière parce que je suis assez éclectique et que je sais faire je sais être compétent et compétitif dans toutes les disciplines et c'est pour ça que je tiens au moins une fois par an à faire d'autres choses pour garder la main.
Et justement, en parlant de ça, une autre question sur le chat, Jérôme.
Oui, il y a sur le Dakar, c'est ça? Oui, par exemple, il y a Tony qui nous demande, puisque partir à l'autre bout du monde, pourquoi pas, et pourquoi pas justement maintenant faire le Dakar, il manque ça un peu à votre palmarès de Michel Vaillant.
Oui, alors, quand on m'a interdit de revenir aux courses sur glace, effectivement, je me suis dit, bah, tiens, je vais me tourner vers le Dakar. J'ai fait le dernier en Afrique. Malheureusement, le suivant, on était au départ, on n'est jamais parti. J'ai fait donc le premier en Amérique du Sud. Mais là aussi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. C'est aussi une épreuve où on met pas mal de temps à s'en remettre. Et nous, maintenant, il n'y a plus de saison. On fait du développement, décembre, janvier, février, et puis la saison, elle démarre en mars. Donc là, le Dakar, ça veut dire préparer en amont, le temps que ça prend, ensuite partir vers le 26 décembre et revenir fin janvier. Et ça, aujourd'hui, dans mon contrat, c'est pas possible.
Je pense qu'on va enchaîner. Alors, Michel, tu avais une question. Après, on va passer au célèbre quiz de Olivier. Dernière question pour Michel.
Oui, à propos du WTCC, hein, je voulais savoir, vous êtes chez Chevrolet, vous avez piloté chez Seat, et je voulais savoir s'il y avait une différence entre la Seat et Chevrolet en termes de pilotage.
Alors, oui, il y a des différences. Ben déjà, il y a une différence entre la Chevrolet 2010 et la Chevrolet 2011, puisque la 2010, c'est un moteur 2 litres atmosphérique, le règlement technique, c'était celui-ci, et 2011, c'est un 1600 turbo, le même moteur qu'il y a dans les voitures de rallye en WRC. Donc déjà, par le fait qu'on passe de l'atmosphérique au turbo, ça demande une façon de piloter et une façon de régler sa voiture qui est différente. Donc il faut s'adapter. Et ensuite, entre la Chevrolet et la Seat, là aussi, j'ai connu la Seat essence, puis la Seat diesel, qui est encore très différent, avec un régime et un couple très bas. Par contre, un régime qui monte pas très haut, il faut changer les rapports très tôt. Donc là aussi, encore une façon de piloter et de régler sa voiture très différente. Donc chaque voiture, même quand elle est de la même marque, il peut y avoir des grosses variantes d'une année à l'autre.
D'accord. Et dans les paddocks aussi, non, il n'y a pas une grosse différence d'ambiance d'une écurie à l'autre? Je me souviens avoir vu à Valence un petit peu plus d'ambiance chez Seat que chez Chevrolet.
Mais forcément, il y a une équipe, c'est des Espagnols, donc des Latins, et puis les autres, c'est les Anglais. Hein, déjà, les Anglais, ils dînent à 18h, et les Espagnols, c'est à 23h. Donc forcément, rien que là, il y a déjà une grosse différence. Mais voilà, après... évidemment, les cultures sont différentes et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de travailler avec des gens très différents les uns des autres, réussir à s'adapter et puis ça aide aussi à garder un esprit ouvert.
Alors, on va passer maintenant au grand quiz d'Olivier.
Parce que j'ai un petit peu peur. Hein. Est-ce que je peux faire ma demande maintenant, Mathieu?
Ne t'inquiète pas. Non, mais Olivier va faire son quiz d'abord, comme ça, ce sera fait, et après, on va clôturer pour la fin. Olivier, je te laisse la parole. On va tester Yvan Muller.
Ouais, c'est un tout petit quiz de 5 questions sur le WTCC et sa carrière.
Yvan Muller, soyez prêts. C'est à vous.
Donc, est-ce que vous savez combien de victoires avez-vous remporté en WTCC?
Ah, Je suis incapable de vous dire ça. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ça doit être entre 20 et 30.
21 victoires en WTCC, c'est le record.
C'est le record.
Ouais.
Avec, ouais, vous dites ça avec un flegme tout britannique. Il n'est pas latin, votre flegme.
Hein. Non, mais ben, forcément, ça fait 2 ans que je travaille avec eux et 8 ans auparavant avec Vauxhall. Non, c'est sympa. Ça prouve que je fais bien mon travail. Après, vous savez, pour moi, gagner une course, je ne trouve pas ça exceptionnel parce que c'est pour ça que je suis payé.
Mais donc, vous avez déjà,
il y a pas de quoi se gargariser.
Bah surtout que moi j'ai déjà lu beaucoup d'interviews de vous forcément et en préparant l'émission aussi et je vois que votre plus grande motivation c'est surtout la lutte pendant la course, ça vous motive plus que les victoires en elles-mêmes, donc c'est ce que vous avez.
Ce qui me plaît le plus dans la course automobile, je vous avoue que c'est d'abord le développement. C'est tout ce qui est en amont.
En amont,
c'est, parce que si on fait un bon travail en amont, eh ben les résultats sont là en course. Après, les week-ends de course, tout est intéressant. La qualif, c'est un exercice de style très particulier. C'est un effort qui est très court, où il faut être très tendu sur les trajectoires. Il faut donner le maximum sans aller au-delà. Et puis après, il y a la bagarre en peloton. Il faut savoir éviter les embûches, avoir des yeux dans tous les coins pour éviter les contacts. Donc, tout est intéressant. Enfin, voilà, moi, j'essaie de me régaler dans chaque exercice de style.
Pardon Olivier, je t'ai interrompu alors que c'était ta séance des questions. Et en plus, hier c'était ton anniversaire, on te chantera quelque chose en fin d'émission. Donc, mais t'inquiète pas. Alors, c'est ta deuxième question là, Olivier, du coup.
La deuxième question, c'est aussi au nombre de victoires, mais en BTCC.
Je sais pas, j'ai fait... combien de saisons j'ai passé? 8 années. On va dire une moyenne de... ouais, de 5 victoires peut-être, c'est possible. Hein.
Donc, 40
victoires, ça paraît beaucoup, non?
Eh ben, c'est 36.
Ah, ben, c'était pas très loin, alors.
Justement, j'ai remarqué que vous avez remporté le plus de victoires en 2001, 10 victoires, et vous avez fini deuxième, alors que quand vous aviez été champion, vous en aviez gagné que 6.
Et comme quoi. Vous allez prendre une autre, comme ça, je le saurai.
Voilà, les prochaines interviews, il le saura.
Allez, Olivier.
Alors. J'ai une autre question. Votre première victoire en WTCC, c'était quand?
Ma première victoire en WTCC, je pense que c'était la première saison. En 2000, quelle année je suis arrivé? En 2006? 2006, ouais, ça devait être la première. Peut-être bien Brandzach, c'est possible?
Ouais, en course 1 à Brandzach, c'est ça.
Bravo. Oh, quelle mémoire. Surtout qu'il y en a eu 20 après, hein, c'est quand même pas évident.
Olivier. Alors là, une question beaucoup plus difficile. Citez-moi les 6 pilotes français qu'il y a eu en WTCC.
Ah.
Les 6 pilotes hein.
Français.
qui ont fait une saison complète ou qui ont fait une apparition?
Ah, juste une course, au moins une course.
Ça, c'est une question.
Il y a Anthony Beltoise.
Ah, bah, je l'ai pas trouvé, Anthony Beltoise.
Anthony Beltoise a fait une course, il a fait la course de Pau, qu'il a commenté en direct pour Automoto. Oh. Ah oui, si, je me suis fait
ça. Ah ouais, exactement.
Commenter, c'est un grand mot, hein. Il y avait un gros mot tous les 3 mots.
Ouais. Et puis commenter Automoto, c'est peut-être pas toujours très, enfin bon, bref, on va pas se lancer là-dedans.
Non, mais une course, ouais. Non. Donc en fait, non, mais une course en ville, en bagarre en peloton et commenter ce qu'on est en train de faire, c'est quand même plutôt compliqué. Même si Anthony a beaucoup de talent, là, c'est quand même un exercice compliqué. Donc, il y avait Anthony, je crois qu'il y a Kerol qui a dû faire une course aussi à Pau, puisqu'il est originaire de là-bas.
Ouais.
En autre français, qui est-ce qui a eu? Ah, c'est Nicole, là.
Bah, déjà.
Ah, il y a Ortelli, Stéphane Ortelli.
Oui.
Vous-même, évidemment.
Un, 2 ou 3. Après, je sèche, là. Je ne vais pas laisser ton blanc, mais...
Peut-être un certain Yvan Muller, aussi.
Oui, Yvan Muller.
Ah, oui.
Bah, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je crois qu'il a gagné quelques courses.
Un petit jeune qui monte.
Un petit jeune qui monte, en effet, ouais.
Ah, je crois que sur le chat, on a même les réponses. Là,
un petit jeune, je ne sais pas, mais qui monte. En tout cas, il est né dans le Haut-Rhin. Je vais pas dire l'année parce que on va déraper là.
Ouais. Soyons discrets. Ouais. Alors, qui sont les ceux que j'ai oubliés? Il en manque 3 donc.
et Eric et Larry.
Ouais.
Soya Yari, Laurent Cazenave et Jean-Marie Cléret.
Et Jean-Marie Cléret, effectivement, qui avait gagné une course en Copa León et qui avait gagné une course en WTCC, effectivement.
Et en parenthèse, c'est Richard qui avait trouvé.
Ouais. Ortelli, il est pas monégasque,
je crois. Oui.
Non, il est moitié-moitié. Il est
naturalisé, on va dire, oui.
Ouais.
Il a demandé les droits de drone à la frontière sur le rocher.
Pour nous, Monaco, c'est français.
Ouais. Alors,
la dernière question. Donc, tous les constructeurs qu'il y a eu en WTCC. Je parle pas de Team Officiel, mais toutes les marques qu'il y a eu en WTCC.
Il est vache, hein, Olivier.
Alors, il y a eu Chevrolet, il y a eu Seat, BMW, Volvo, Lada. Cette année, il va y avoir Ford. Il en manque ?
Il en manque que 4.
4 comme ça ?
Il précise que 4, hein, il a dit.
2 japonaises.
Honda.
Voilà, il doit y avoir Toyota, non ?
Honda, Toyota, oui.
Il n'y a pas eu Alfa Romeo ?
Ah oui, effectivement, Honda, oui. C'est sûr.
Alfa
Honda,
Romeo. Honda, et... Alfa Romeo. Alfa. Et une française.
Et Peugeot, oui !
Peugeot. Et Peugeot.
Ouais,
mais ils se sont retirés, non?
Ah, Pacao, il n'avait jamais pris de départ, il n'était pas content.
Ah, ça c'est pas bien, ça.
Ouais.
Et je crois que Jérôme, tu sais tes réponses, si c'est bien, Jérôme peut travailler, hein.
Je me souviens.
Quelle mémoire, Jérôme, quelle mémoire.
Alors, bah, justement, maintenant, bah, le quiz terminé, on va conclure sur 2-3 mots. Sur, alors vous êtes un des représentants de la filière FFSA. Vous étiez à Chamonix avec l'équipe de France, tout simplement. Un petit mot sur les pilotes français en Formule 1 aussi. Comment voyez-vous l'évolution de la nation maintenant en Formule 1 et en sport mécanique ?
Bah, effectivement, il y a des jeunes qui vont arriver en F1 avec Grosjean qui retourne, Jean-Éric Vergne et puis Charles Pic. Ce sont 3 produits vraiment de la filière FFSA. Ils ont été tous les 3 en équipe de France Karting, une équipe de France Karting de laquelle je suis le capitaine maintenant depuis 3 saisons, et je les suis autant que je peux. En tout cas, si j'arrive pas à aller sur les circuits, je me tiens informé de ce qu'ils font. Je pense qu'il y a vraiment des talents. On n'avait pas vu beaucoup de Français depuis longtemps, je dirais depuis Panis, à part Bourdais qui a fait une saison. Mais là, on en a 3 d'un coup. C'est beau. On peut, je pense, féliciter la fédération parce que c'est quand même en grande partie grâce à eux, parce que la fédération fait beaucoup pour les jeunes. Malheureusement, ils peuvent pas s'occuper de tout le monde, mais en tout cas, ils essayent autant qu'ils le peuvent. Et puis voilà, ils ont créé cette équipe de France Circuit, cette équipe de France Karting. Là, on en a un de l'équipe de France Karting qui est passé en voiture, et Pierre Gasly qui va signer un contrat Red Bull, qui est pas sans rappeler le contrat qu'avait eu justement Jean-Éric Vergne avant lui. Donc, faut pas brûler les échelons, faut pas tirer des plans sur la comète. Mais en tout cas, on a les talents, et aujourd'hui, on a une fédération qui remplace un petit peu ce que Elf a pu faire dans le temps avec la filière ou les cigarettiers qui ont apporté beaucoup de talents en Formule 1, en tout cas des talents français. Et aujourd'hui, on a la fédération qui remplace tout ça et qui s'en sort quand même plutôt pas mal.
Et vous soutenez le Grand Prix de France au Castellet, ce mouvement qui a impliqué tout d'abord les anciens pilotes français, et puis après... On l'a vu, donc ça devrait être signé normalement entre Bernie Ecclestone et le gouvernement. Donc est-ce que vous êtes favorable aussi ?
Ah ben moi je suis favorable pour tout, hein, y a pas de souci, tant que ça fait du mal à personne, moi je suis.
Ouais, le problème c'est que ça fait du mal à Spa ici. Hein.
Oui voilà, c'est clair.
Pardon ?
Ça fait du mal à Spa dans ce cas-ci, puisque c'est en alternance et du coup ça pénalise.
C'est surtout les fans, quand on lit sur internet, beaucoup de fans sont vraiment assez réticents à ça. Parce qu'on va, objectivement, on perce pas une année sur deux, et c'est assez compliqué à avaler. D'autant plus que beaucoup de gens le savent, le Castellet, ça va pas être très sexy, hein, comme circuit. Mais bon, après, on a la France qui revient en F1, ça fait quand même une bonne chose, même si il y a beaucoup de gens, on le lit, et nous, on peut en faire partie, on le dit,
on n'est malheureusement pas extrêmement favorable au Castellet.
À la suppression de Spa, parce qu'il faut le dire que les gens sont assez lucides. Une alternance, ça pénalise souvent le plus petit pays, la plus petite puissance économique, et ici ce serait Spa, et faire disparaître Spa du calendrier. C'est pour ça que cette mesure est assez contrastée, même en France.
Il faut se rendre compte que l'alternance peut aussi sauver Spa.
Ouais, mais elle peut le tuer. Le problème, c'est qu'elle peut le tuer, alors qu'une non-alternance...
On a plus de chances de le sauver que de le tuer.
Je n'en suis pas certain du tout.
Alors, Yvan, donc...
Moi, je suis assez d'accord. L'alternance peut au contraire sauver Spa. Peut-être que économiquement, je ne sais pas, je ne suis pas dans les détails des choses, mais ça peut les aider de le faire une année sur deux. Après, vous disiez que Castellet n'était pas un circuit particulièrement sexy. Moi, quand j'étais gamin, j'ai vu beaucoup de grands prix au Castellet. Je peux vous dire qu'il s'y passait toujours des choses. Donc, pourquoi pas, ça serait sympa. Et puis, une fois, on va en Belgique, une fois, on va au Castellet. Et puis, voilà, une fois le Nord, une fois le Sud.
Tant que l'un des deux ne disparaît pas par la suite.
Oui, exactement. En tout cas, voilà, mais on est quand même très fiers on voulait un Grand Prix de France, on le voulait à Paris, Manicourt, ça passe au Castellet. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui retournent un peu leur veste, on ne revoudrait pas, mais on n'est pas à la place du gouvernement, c'est vrai. Malheureusement, on ne peut pas décider à leur place.
Mais c'est une information qui a été officielle.
Alors, normalement, c'est lundi dernier, il y a David Douillet, ancien ministre des Sports, devait rencontrer Bernie Ecclestone. On n'a pas encore eu la réponse, donc on va attendre quelques jours et normalement on devrait avoir des retours là-dessus.
Sachant que ça doit être signé des deux côtés de la frontière, bien évidemment.
C'est ça. Alors, messieurs Sketch, d'abord un dernier mot avant de laisser la parole Chris pour Yvan. Est-ce que, messieurs, on a une dernière chose à dire à Yvan Muller?
Oui, moi j'aimerais bien qu'il laisse quand même gagner quelques courses à la menu, le petit Suisse qui est...
Vous avez dû le remarquer.
Il n'y a pas besoin que je l'aide à gagner des courses. Il va en gagner, il en a gagné pas mal. Et il va encore en gagner, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je peux le battre, je vais prendre en privé.
Bien sûr.
Sébastien Moulin, notre excellent consultant et compatriote, vous l'avez remarqué sans doute à l'intonation.
C'est notre voisin helvète. Ouais,
exactement, voisin helvète.
Alors bon, Chris, je vais te laisser parole pour ta célèbre demande qui va nous faire rire, je sens.
Ah bah oui, parce que je vous fais rire toutes les semaines, ce serait un peu prétentieux, ce serait une prétention que j'offrirais à Yvan Muller, puisque vous savez que, bon, évidemment, tous les autres consultants rigolent de moi, mais moi j'ai une phrase, et c'est curieux que vous soyez l'invité Yvan Muller, parce que j'ai une signature, moi, dans l'émission, qui porte un peu votre marque, parce qu'à chaque fois que vous gagnez une victoire... J'ai une phrase qui va être reprise en cœur, je cite toujours cette phrase-là, peut-être votre porte-bonheur, en tout cas, ça ne vous a pas porté la poisse hein, l'année passée.
On va la laisser la compléter d'abord,
si je la trouve. Oui, alors, et je dis toujours en conclusion, et en plus, évidemment, la phrase, Mathieu, vous allez le dire en cœur quand même la phrase, vous vous moquez de moi assez durant l'année pour...
Le célèbre slogan de la marque.
Et en plus, il roule en Chevrolet. Alors, évidemment, le plus beau cadeau que vous pourriez m'offrir, monsieur Yvan Muller...
C'est...
Non, enfin presque. Non, pas encore tout à fait. Non, mais ce serait que cette phrase sorte de votre bouche et à chaque fois que vous remporterez la victoire, à chaque victoire que vous feriez, ce n'est plus moi qui citerai cette phrase, mais on vous la fera entendre de par l'enregistrement que vous allez, parce que vous êtes très aimable et vous allez me faire cet immense honneur et plaisir là et de dire. Et en plus, je roule en Chevrolet. Si ça vous sortait de votre bouche avec beaucoup d'émotion, ça me ferait le plus grand des plaisirs.
Moi, je dirais, c'est normal que je gagne parce que je roule en Chevrolet.
Merci beaucoup. Magnifique. Eh bien, voilà, ce sera notre leitmotiv. Ce ne sera plus moi qui me ferai moquer. Et à chaque fois, je sortirai cette phrase-là, à chaque fois, à chaque signature qui suivra une de vos victoires. Et j'espère qu'elles seront nombreuses, les signatures et donc les victoires.
Vous savez, il y a un slogan que Louis Chevrolet aimait bien, le fondateur donc de la marque, qui était d'ailleurs
le Suisse.
aimait bien dire, c'était never give up.
Ah oui, ça c'est un bullet motif aussi pour les sportifs, ne jamais abandonner. Et ben, alors avant de se quitter, nous aussi on a une dernière obligation pour la radio, c'est de faire une petite phrase de dédicace. C'est tout simplement nous dire ici Yvan Muller, bienvenue dans le Motors Show à Radio Talk & Sport.
Voilà, là, tu lui en demandes beaucoup, hein, dans le motor show.
Voilà, ou alors, non. Ici Yvan Muller, bienvenue à Radio Talk and Sport.
Ici Yvan Muller, bienvenue à Radio Talk and Sport.
Ouais. Eh ben, c'est bon, ça va être enregistré.
Il est quand même excellent, hein. C'est l'invité, je sais qu'on a eu des invités. Des champions du monde handball français, une belle brochette. On a dû des invités prestigieux en football. On a reçu des invités en cycliste. Il est quand même le meilleur. Hein. C'est le seul qui n'a pas écorché cette annonce finale. Franchement, mes respects, Monsieur Muller. Et en plus, vous roulez en Chevrolet.
Et en plus, il roule en Chevrolet.
Ouais, voilà. Il fallait que je la fasse aujourd'hui quand même. Hein.
Pas de souci. Ben, je pense que nos amis auditeurs, on va devoir dire au revoir à Yvan Muller. Ce que je vous propose, c'est de revenir une fois dans la saison pour nous reparler de cette saison 2012 en WTCC qui vous attend et qui va être assez intense, je l'imagine. Hein, la revanche de Rob Huff ou Gabriel Tarquini ou d'autres très très bons pilotes. Donc moi, personnellement, tout d'abord, ce que je vous souhaite, c'est évidemment une très bonne saison 2012 avec Chevrolet et de porter haut les couleurs de la France qui, grâce à vous, ont encore atteint des sommets.
Écoutez, merci beaucoup. Je ferai en tout cas de mon mieux pendant cette saison avec ma Chevrolet. Et je vous souhaite longue vie.
Ah bah, merci beaucoup.
Et ben, voilà. Bon courage donc pour 2012.
Le compliment est partagé. Et bah, moi, j'ai une proposition à faire à Monsieur Muller. Hein. On se refait ça. On se donne un petit rendez-vous, pas dans 10 ans, mais dans un an, pourquoi pas, en février 2013. Pour parler de ce superbe titre de la saison 2012 et d'une année exceptionnelle de tous les records. C'est le souhait que je vous fais en tout cas, que je vous aimais.
Si tu gagnes pas, vous m'invitez quand même.
Ah oui, quand même. Après longue hésitation, on le fera quand même.
Donc,
quoi qu'il arrive.
En tout cas, on espère aussi vous rencontrer sur les pistes. Alors bon, pour les manches en WTCC, on ne sait pas trop encore comment on va faire. Personnellement, j'hésite peut-être, ça va être compliqué. Tout simplement, est-ce que par hasard vous serez à Monaco le 27 mai pour le Grand Prix de F1 ?
Non, il y a vraiment très peu de chances que je sois à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1 parce que je le vois beaucoup mieux à la télévision. En revanche, je vous invite tous à venir quand vous voulez sur un circuit WTCC. Le calendrier, vous le trouverez un petit peu partout sur le site du WTCC ou autre. Mais vraiment, venez voir, parce que ce qui est sympathique dans notre championnat, c'est que le spectateur a accès au paddock, il a accès jusqu'au stand, ou presque juste derrière les dernières portes des stands, et c'est vraiment une ambiance qui est plutôt sympathique, qui reste somme toute très professionnelle, mais les pilotes, les voitures sont beaucoup plus abordables que dans d'autres disciplines.
Je confirme.
Eh ben, c'est noté. Bah oui, c'est clair que le voir sur place, ce sera complètement différent de la télé. Et on est tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, on sait que c'est un championnat très disputé. Bon, eh ben, nous disons bonne soirée, monsieur Yvan Muller, et merci beaucoup de cette invitation. Et on espère donc vous revoir très vite dans l'émission. Et on vous souhaite bonne chance.
Merci
à vous.
Merci à bientôt sur les pistes enneigées également et station Valaisanne.
Voilà. Rendez-vous à Traquel.
C'est noté.
Voilà.
Avec Jean-Laurent en pause à partir de 18h. Ça marche, j'irai le voir, je lui donnerai rendez-vous.
Voilà, Mathieu.
Grande chance d'avoir eu Yvan Muller dans l'émission.
Pour moi, c'est un double plaisir pour moi, vous l'imaginez. Donc. Merci aussi aux auditeurs qui ont été très actifs sur le chat. On essaie de faire part de leurs réactions. Donc voilà. Et c'est Jérôme en plus en excellent speaker.
Ça a été compliqué sur la fin. J'ai Simon qui a voulu poser une question. Je m'excuse. On était en plein outro. On était en train de dire au revoir. Je ne pouvais pas tout interrompre malheureusement. La prochaine fois en 2013, promis, j'enchaînerai sur la question.
Bon, peut-être avant. On espère qu'il nous viendra nous voir prochainement. Bon, il reste quand même du temps. On a un programme. Messieurs, on va enchaîner sur les infos de la semaine. Il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, eh ben, c'était hier. On l'a.
Le motor show qui a reçu Yvan Muller. Alors, Yvan Muller a déclaré que sur le
point. Non, hier, c'était mercredi 1er février, la deuxième monoplace. On parle de Formule 1. Bien sûr, la deuxième monoplace à se dévoiler. Et attention, elle n'a pas de nez à la Caterham. C'est déjà une bonne chose. Hein, messieurs, le look est assez sympa. La McLaren MP4-27 a été dévoilée à Woking dans leurs usines. Donc, tout d'abord, un premier avis, où on l'a tous vu hein, en photo. Un premier avis sur le look, le design, pour commencer.
Très simple.
Ah, et Michel, vas-y.
Ouais, bah, c'est un look assez simple. Je pensais que ça allait être typé Caterham, mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Le museau est plus que simple. Je pensais que ça allait être assez fin, pas très étroit. En fait, c'est plutôt bien travaillé. Les pontons, pareil. Ils ont changé les pontons. Ils ont remplacé la forme de U en quelque chose de tout à fait normal.
Sébastien?
Et surtout, elle a gardé ses couleurs chrome qui lui vont si bien. Il y a quelques rumeurs.
Elle brille encore plus, même.
Oui, parce qu'elle est neuve.
Oui, non, je sais pas. Quand j'ai vu la photo, ça m'a vraiment remarqué.
Ouais, j'ai aussi remarqué ça. Ouais. Mais surtout, elle est super. Mais quelques rumeurs nous avaient laissé croire qu'elle aurait pu changer de couleur pour prendre une couleur.
Ah, Sébastien.
Super couleur.
Ah. Ça, c'est un marronnier, ça, le changement de couleur de McLaren. Ça fait des années qu'on nous dit qu'elle va revenir en orange. Même une année, on nous parlait qu'elle allait prendre le drapeau de l'Union Jack.
Ah oui.
Finalement, au bout d'un moment, on a toujours le même drapeau. Je pense que c'est surtout McLaren qui s'amuse à lancer des petites rumeurs pour faire le buzz sur son monoplace. Puis finalement, on a toujours des flèches d'argent ou des voitures plutôt chrome. Non, je pense que c'est surtout McLaren qui fait le buzz et ils sont très attachés à leur couleur.
Oui, Mathieu, on a parlé de l'esthétisme, pas spécialement rentrer dans le détail niveau technique. Je suppose que Sébastien ou Michel vont le faire à ma place. Je suis moins qualifié que pour cela. Et sur le plan sportif, faut le dire, les déclarations d'avant-saison, elles sont quand même encore nombreuses. Et ici, McLaren, on nous annonce qu'on va lutter pour les deux titres de champion du monde. Allez, hop, ça c'est fait.
Ben, bon, d'un côté McLaren, c'est normal. De toute façon, on peut toujours compter sur cette équipe, je pense, hein, maintenant, pour viser au moins le podium ou la victoire. Elle a acquis une notoriété, une expérience incroyable. La deuxième plus grande équipe historique après Ferrari. Donc McLaren est vraiment aux avant-postes.
Donc, ben, c'est comme ça. Hein. Oui. Sur les top teams, si Ferrari dit qu'il ne vise pas le titre, c'est pas un top team. C'est Ferrari, McLaren, Red Bull, si les trois équipes-là ne disent pas qu'ils veulent jouer le titre, ils peuvent remballer, ils peuvent arrêter la saison. Ils peuvent même pas commencer la saison d'ailleurs.
Alors au niveau technique, donc on l'a vu, les pontons en U ont été supprimés à cause de la réduction du soufflage au diffuseur. C'est vraiment le principal gros changement visuel tout simplement que l'équipe affirmé, c'est une évolution de l'année 2011, donc ils se sont basés sur la voiture de l'an dernier, c'est plutôt assez solide, au moins comme ça ils n'ont pas trop ils n'ont pas pu tout changer et remettre à zéro la voiture, c'est une bonne nouvelle pour elle.
C'est d'ailleurs ce que Simon nous fait remarquer sur le chat, il est très déçu d'ailleurs, le fait d'avoir vu pas vraiment d'évolution, et pour lui c'est vraiment une version B de 2011, quelques changements.
Je pense pas que cette année on aura des gros changements au niveau des monoplaces, parce qu'on a quand même une certaine stabilité du règlement. Dans 2 ans, on aura une révolution totale avec le nouveau moteur, mais je m'attends pas à avoir des très très grosses révolutions cette année. Vous êtes pas d'accord?
Oui, ça c'est sûr. Il y a juste le soufflage au freinage et l'échappement directement dans le diffuseur. Et en fait, tout d'abord, c'est Martin Whitmarsh qui nous a dit, on n'est pas au bout de nos surprises. Ils ont dit, ils ont travaillé à la limite du règlement, donc on peut encore nous attendre à quelques surprises. Et logiquement, c'est toujours le cas lorsque la monoplace, hein, lorsque la voiture est dévoilée, c'est jamais la version définitive lors du premier Grand Prix. Pendant les essais, ils vont travailler, mais ce qu'on peut dire, c'est que là, visuellement, il n'y a pas d'énormes changements. Et Sébastien, je suis d'accord, hein, par rapport au règlement, il n'y a pas un changement drastique comme ça a été le cas en 2009 ou que ce sera le cas en 2014.
Mais c'est sûr, de toute façon, c'est pas la voiture définitive. S'ils avaient vraiment trouvé une interprétation du règlement jusqu'au boutiste, c'est en tout cas pas lors de ses premiers essais et en tout cas pas lors de la présentation qu'ils l'auraient mis en avant. Ça c'est sûr.
Ouais, Olivier?
Ouais, non, parce que je trouve que la McLaren c'est juste une évolution, alors que moi je pensais à une révolution de la part de McLaren, parce que avec cette évolution-là, je pense pas qu'ils vont pouvoir encore battre Red Bull cette année.
Bon, on verra bien. De toute façon, c'est clair que pour l'instant, on ne peut pas faire d'énormes pronostics. Oui,
puis la révolution, cette année, je pense qu'ils n'ont pas osé la faire. Hein. Ça aurait été un peu irrespectueux pour Steve Jobs. Pourquoi?
Non, c'est... Est-ce que ceci
je me lâche, Yvan, oui. Parce que pendant 1h20, j'ai dû être sérieux, j'étais tellement...
D'ailleurs, si on fait le parallèle, en fait, la nouvelle McLaren est en fait le petit McLaren 4S, quoi. Ils ont juste rajouté 2-3 trucs, et puis ils vendent ça beaucoup plus cher.
Ouais.
Mmh. Il faut se méfier de faire des pronostics si tôt. Souvenez-vous, le McLaren, l'année dernière, même durant tous les essais d'intersaison, ils étaient totalement à la ramasse. On leur avait déjà prédit le fond du trou et finalement, ils ont fait une saison qui était plus que remarquable.
Et on prédisait au Ferrari.
Et on disait que Lotus Renault allait gagner.
Non, c'est faux. Par contre, sauf blessure, mais on prédisait au Ferrari de. On prédisait au Ferrari de rester aussi âge de Red Bull, ce qui n'a pas été le cas. Hein, surtout
pour McLaren l'an dernier, ils sont repartis 2-0. Ils ont eu un gros souci avec les échappements. Ils ont été en retard pour le développement. Ça a été très très compliqué à l'usine. Alors que là, ils l'ont dit, Whitmarsh l'a dit, ça a été plus serein, plus tranquille, on va dire, cet hiver. Donc ils ont pu travailler vraiment sur les règlements. Comme il le fallait, je pense qu'ils ne sont pas plus inquiétés que ça. Logiquement, on peut les faire confiance, ils devraient faire une saison 2012 plus que correcte. Et c'est sûr que maintenant, avec les pneus Pirelli et Jenson Button, la paire est vraiment parfaite. On peut s'attendre à une saison encore meilleure que 2011. Et on espère surtout, grâce au règlement qui a changé, que McLaren, le moteur Mercedes surtout, puisse revenir à hauteur du moteur Renault et donc surtout Red Bull. Donc voilà pour la nouvelle McLaren. Donc on en saura plus encore dans des essais à Jerez le 7 février.
Et surtout en Australie le 18 mars. Et le 18 mars, c'est dans très longtemps. Il peut encore avoir beaucoup d'évolutions sur les voitures.
Exactement. Mon premier exactement de l'émission. Et je termine par rappeler que Sam Michael est passé directeur sportif chez McLaren. Il était, on s'en souvient, depuis 2005 du côté de Williams.
C'est ça.
Oui. Il était chez Williams, donc l'écurie britannique de Sir Frank Williams. Une deuxième petite info Formule 1, c'est que le moteur Renault a démarré, donc tout va bien du côté de Lotus F1 Team. Je rappelle, le nom de la monoplace sera la Lotus E20, en hommage au 20e anniversaire de l'usine d'Enstone, qui travaille pour l'équipe Renault, donc désormais Lotus. Donc Sébastien, on n'avait pas ton avis, tu n'étais pas là, mais un petit mot sur Lotus F1 Team. Le duo Raikkonen-Grosjean, comment le voit-on depuis la Suisse, qu'on va soutenir son pilote national?
Oui, enfin, on va pas polémiquer sur la nationalité de Grosjean, c'est clair que c'est un pilote franco-suisse, et je pense qu'on lui donne une seconde chance, c'est plus que mérité, je pense vraiment qu'il la mérite. Et par contre, cette fois-ci, il a plus le droit à l'erreur et il faudra qu'il se monte directement à la hauteur de la chance qu'on lui offre à nouveau. Il se retrouve à côté d'un champion du monde. Un champion du monde a un caractère un petit peu particulier, mais qui doit aussi refaire une part de son avance. On a vu que d'autres champions du monde avaient quand même mis un petit peu de temps pour se remettre dans le bain, donc j'espère vraiment que Romain va profiter de ce temps-là pour, dès le début de la saison, faire des coups d'éclat, et s'il y parvient, je lui donne j'ai vraiment bon espoir pour qu'il fasse une super carrière en Formule 1.
Voilà, c'est dit au moins, et on espère aussi que c'est vraiment un duo qui est très très intéressant à suivre, hein. On pense que ça peut être pas forcément l'un des meilleurs, mais vraiment très un niveau assez relevé. C'est clair que beaucoup d'interrogations autour de ce duo, mais il a l'air vraiment très puissant. Et ça, il peut créer quand même des surprises. On a hâte de voir ça. Une autre info concernant la Formule 1, c'est le procès d'Adrian Sutil qui a eu lieu cette semaine. On le sait, c'est 18 mois de prison avec sursis. Bon, c'est quand même beaucoup. C'est plus qu'un an original. À l'origine, ça devait être un an, c'est passé à 18 mois. Donc, pour Adrian Sutil, logiquement, sa carrière de F1 est mise entre grosses parenthèses, hein, bien épaisses. C'est compliqué pour lui, il va devoir attendre, Jérôme, longtemps avant de retrouver un baquet. Bon, on n'est pas à l'abri de nos surprises, mais surtout, ce qu'il faut annoncer, c'est que ça fait le buzz sur Internet. C'est qu'Adrian Sutil a déclaré que l'absence d'Hamilton était assez... Il a été déçu par l'absence de Lewis Hamilton et l'a traité de lâche. Bon, McLaren a interdit Hamilton de répondre à l'accusation de Sutil. Il devrait régler ça en privé. Bon, ça va
être un coup de bouteille de champagne.
Voilà. Donc malheureusement, pour Sutil, il n'a pas pu avoir le vrai discours d'Hamilton. Ouais. Mais Hamilton a dit qu'il ne s'en souvenait même pas de l'affaire en détail.
Donc, justement, voilà, Tony, Mathieu nous demande ce qu'on en pense. Donc commençons par toi, Mathieu. Comme tu poses toujours les questions premières, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu?
Bah, le témoignage, c'est Hamilton. Enfin voilà, on n'est pas dans la tête de Lewis. On ne sait pas s'il avait vraiment envie d'y aller. Pourtant, normalement, c'est obligatoire. Ensuite, c'est vrai que son discours aurait dû être important. C'est un témoignage, donc c'est une forme de preuve dans la justice. Et normalement, voilà, s'il devait mentir face au juge, il aurait été lui aussi impliqué dans l'affaire. Donc il n'avait pas à mentir. Peut-être qu'il ne se rappelait pas exactement des faits. On peut le croire. C'est vrai, ça remonte à longtemps quand même.
Oui, mais bon, tout témoin doit témoigner. C'est vrai. C'est un acte judiciaire primordial. Si c'est quelque chose, il doit y aller, même si c'est pour dire qu'il a eu ça, il doit y aller. C'est pas parce que c'est Lewis Hamilton qu'on est dispensé de jugement, même en tant que qualité de témoin.
Olivier, tu voulais réagir?
Olivier, justement.
Non, après l'histoire Hamilton et Sutil, bon bah ça passe un peu out. C'est surtout qu'on perd un super pilote. Ça fait déjà plusieurs fois que je le répète. Sutil, c'est vraiment quand même un très bon pilote du plateau, et le perdre pour on va dire pour une histoire assez bête comme ça, c'est vrai que c'est quand même assez dommage.
Voilà, mais bon, c'est quand même...
Je peux donner mon avis aussi?
Oui, vas-y.
Pour moi, c'est juste pas du sport automobile. On a une émission de sport automobile. Moi, sur mon propre site internet, j'ai refusé d'en parler, parce que c'est une affaire qui... On n'est pas habilité de parler de ces choses judiciaires, de ces histoires hors du circuit. Parlons de sport automobile et espérons que Sutil, même si je ne partage pas tout à fait l'avis comme quoi c'est un pilote exceptionnel, il mérite sa place en tout cas dans le sport automobile, si ce n'est pas en Formule 1, et tout le reste n'est que...
Ouais. Non, justement, c'est intéressant ce point de vue, Sébastien. Non, mais je comprends ton point de vue. Je suppose qu'on va pas faire un débat là-dessus aujourd'hui, mais justement, moi, je suis partagé par rapport à ça, parce que où se situe là la frontière entre le cadre privé et le cadre public? Parce qu'ici, on parle d'un événement qui s'est passé aux alentours du paddock, donc plutôt dans quelque chose qui concerne la discipline de Formule 1, même si ce n'est pas sur le circuit. Quand il y a un incident ou une bagarre dans les paddocks, on peut pas dire « bah c'est pas sur le circuit, on s'en fout ». Donc c'est ça le problème, Sébastien. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais où se situe la frontière entre le public et le privé dans ce cadre-ci?
Bah, de toute façon, c'est des personnages publics.
Oui, oui.
Donc,
oui.
C'est normal qu'on en parle, mais je pense que c'est pas aux revues et aux médias spécialisés de faire ce tel étalage de ce qu'a pu dire, les mots qu'a pu avoir Sutil par rapport à Hamilton. Ce serait même pas
dans
la presse. C'est vraiment faire le lit des polémiques, et naturellement on a une période où la Formule 1 a une actualité qui recommence à bouger, mais qui a encore pas trop bougé, et on saute sur ces informations pour faire du chou gras.
Je voulais au moins le souligner, parce qu'on a eu au moins le verdict, et on en avait parlé il y a quelques temps, et voilà, c'est vrai, l'affaire est close. Sutil, malheureusement, sa carrière est mise entre parenthèses. C'est vrai que c'est un pilote plus ou moins apprécié ou bon pour certains, c'est un point de vue, mais tout simplement, bon, il suffisait d'en parler pour clore l'affaire, au moins comme ça, on est complet.
Maintenant, c'est un débat qui dépasse, j'en conclue moi, mais c'est un débat qui dépasse un petit peu le cadre de cette affaire. Je vais pas faire une tartine là-dessus, mais franchement, c'est vrai que la question que pose Sébastien pose une vraie question. Pour le moment, un petit peu dans les émissions justement à thème spécialisées, on en est une, mais dans les médias en général, quelle doit être la place de l'information pure des sports? Parce qu'on a l'impression ici que, alors que c'était pas tout, les sports étaient pas touchés il y a quelques années par ça. C'était quelque chose qui concernait le showbiz et la politique. On a vraiment l'impression que maintenant il y a un côté trash, et on va plus à l'info sensationnelle. Ça ne concerne pas que l'émission, enfin même pas du tout, je pense. Mais voilà, c'est un vrai débat de fond qui va être posé, je pense, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, ce qu'a dit Sébastien. Il va avoir, je pense, un vrai débat là-dessus dans les prochains temps.
Donc, je vous propose de faire une transition assez sympa.
D'ici là, oui.
C'est qu'Adrien Sutil ne pourra plus courir en F1 avant quelques temps. Il y en a un autre qui a été évincé de Renault, qui ne pourra plus courir en Formule 1 certainement durant la fin de sa carrière. Nick Heidfeld, le tant controversé pilote allemand l'an dernier chez Lotus, a trouvé une porte de sortie. Il participera aux 24 heures du Mans avec Rébellion, qui auront une voiture Toyota. Donc, une reconversion comme une autre pour Hetfeld. Donc, c'est plutôt sympa pour l'Allemand qui n'avait plus trop d'avenir en Formule 1. On parlait de DTM. Bon, il va tester les 24 heures du Mans.
Oui. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai passé la soirée d'hier soir avec Nick Heidfeld, puisque hier soir était la présentation en Suisse d'un livre qui s'appelle « Les Suisses au Mans ». Et comme vous savez, un Suisse a gagné les 24 heures du Mans cette année. Et l'écurie Rébellion est une écurie helvétique également. Et j'ai été invité à l'inauguration de ce livre et était présent Nick Heidfeld. Et j'ai jamais été un très très grand fan du pilote allemand. Mais je dois avouer que hier soir, il m'a vraiment surpris déjà d'être présent à cette petite manifestation et surtout d'avoir le sourire et d'être vraiment... En fait, c'est un type qui est vraiment charmant. Bah, oui, au contraire d'un très grand pilote français dont on a fait allusion tout à l'heure, qui a gagné plusieurs titres, qui était également présent à cette soirée. Et qui a
pas la même bronze. Soyons précis, on parlait pas d'Ivan Müller qui a été super humble, j'ai trouvé super.
Non, vraiment pas.
Non, mais il faut le préciser justement. Et justement, il faut le préciser.
Je parlais d'Alain Prost.
Ah. Ouais, enfin, ça, c'est de notoriété publique, Alain Prost. Enfin, bon, on va pas. On respecte à la carrière d'Alain Prost, mais c'est de Alain Prost ne viendra jamais sur dans le Motor Show. Voilà, on a compris.
Attendez, on sait jamais. On sait jamais.
Non, mais.
Par contre, Nicolas Prost, qui est aussi un pilote du Rébellion Racing, est d'une simplicité et d'une gentillesse vraiment remarquable.
Ah oui, c'est sûr.
Non, mais quelque part, c'est pas illogique non plus. Quelque part, je ne vais pas spécialement défendre Alain Prost, mais bon, ici, on parle de gens qui sont, voilà, qui ont gagné. Et c'est vrai que quelque part, moi, j'étais très, très touché même par la simplicité d'Ivan Müller tout à l'heure. Ça m'a vraiment profondément marqué. Je m'attendais à quelqu'un très ouvert et sympathique. Mais pas avec autant la limite d'humanité et de simplicité. Vraiment, quelqu'un de très terre-à-terre, qui te parle avec respect, comme son égal. Et quelque part, bah, c'est vrai, quand on parle de Formule 1, de super champion, bah, il y a peut-être pas ce côté-là. Même si tu vas me citer des contre-exemples, même si Mathieu a sa liste de contre-exemples en tête. C'est vrai, quelque part, il y a une déification médiatique, notamment d'Alain Prost, qui permet aussi, voilà, ce qui lui fait...
Non, mais pour niquer de fait, tout simplement, c'est que, bon, c'est un pilote qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est tout. On ne connaît pas beaucoup, on ne connaît qu'à travers la Formule 1 et les courses, on ne connaît pas personnellement. Effectivement, sûrement un garçon complètement sympa à parler avec lui, tout simplement, mais c'est clair qu'en même temps, il n'a pas été très bien traité.
Il a beaucoup changé d'écurie, il n'a pas eu le temps de se faire vraiment une encore. Il n'a pas une vitesse non plus qui est exceptionnelle. Il était engagé par Mercedes, mais il a été plus ou moins rejeté. Oui, c'est bon, c'est certainement un bon pilote, mais alors pour rebondir, il va se tourner vers l'endurance. Bon, il va pas faire énormément de courses. Je crois qu'il est annoncé pour Sebring et pour les 24 heures du Mans. Je pense que c'est un plus pour une écurie comme Rébellion. Parce que pour avoir aussi eu la chance de causer avec les mécaniciens du Rébellion, il semblerait dès le premier abord que c'est vraiment un bon metteur au point. Il a donné tout de suite des informations qui étaient tout à fait pertinentes.
Oui, bien sûr. Hein. Enfin, on ne connaît pas non plus extrêmement bien, ça c'est sûr. donc voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on lui souhaite toute la chance. Hein. Cette bonne chance de l'endurance, il va peut-être gagner des trucs, des courses. On espère pour lui, c'est un très bon pilote, et effectivement, il a quand même une carrière assez riche. Mais je pense qu'il n'a pas été traité correctement à certains moments face aux médias. Mais bon, ça, malheureusement, on n'est pas à la place des grands médias. Hein.
Et pour l'instant, il a un record en Formule 1, c'est le nombre de grands prix sans victoire.
Oui, c'est un triste record pour lui.
Non, mais il faut voir les écuries. Par les écuries aussi où il a parcouru. Hein.
Oui.
Ouais, il n'a jamais été là au bon endroit au bon moment.
Bah, c'est voilà, vrai. C'est aussi ça.
Chez BMW Sauber, il aurait pu. Hein,
mais la victoire de Kubica, justement, c'est un peu celle qu'il lui a offert à Kubica en 2008. Mais bon, c'était un peu pas une consigne d'équipe, mais il a dû s'y résigner.
Voilà, donc Mathieu, juste peut-être... Un petit mot à l'adresse de nos amis auditeurs. Ils peuvent bien évidemment continuer à réagir sur le chat. Si le chat ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a une page d'un réseau social qui est prévue à cet effet, qui s'appelle le espace Motors avec un S, espace Show, SHOW. Et vous pouvez, sur cette page, donc, d'un réseau social qui commence par F et qui se nomme Facebook, voilà, vous pouvez bien évidemment réagir, poser vos questions à nous, débattre et continuer à partager votre passion des sports mécaniques. On vous y attend nombreux. Il n'y a pas de sondage ce soir. On s'est contenté d'Yvan Muller. Oh, c'est vrai. On fait les choses en toute simplicité. Pardon, c'est vrai, voilà.
On continue une info F1 encore, hein. Je rassure Simon, on va parler des disciplines des annexes juste après. On termine sur la Formule 1. Gilles Bianchi, on s'était inquiété jeudi dernier pour son navire. Bon, le lendemain, c'était vendredi dernier, Gilles Bianchi a signé un contrat de troisième pilote avec Force India. Finalement, c'était la logique, c'était prévu même, on en avait parlé depuis longtemps. C'est officiel, donc tant mieux pour lui, il sera la troisième pilote chez Force India. Il devrait faire 9 vendredi matin avec l'équipe. Plus une carrière, en, peut-être une saison en 3.5 en World Series by Renault, donc c'est assez chargé pour le Français. Il était quand même déçu, c'est vrai, de ne pas être titulaire pour la saison à suivre en Formule 1, mais il a quand même une demi-porte entrouverte pour la discipline pour, pourquoi pas, 2013 ou 2014. Donc rien n'est perdu pour le Brignolais.
Yes.
Voilà. Pour Gilles Bianchi. Autre
et du coup, tu sais s'il quitte le giron Ferrari ou il est...
Alors, il a remercié Ferrari, mais a priori, oui. Mais peut-être qu'il fait encore partie.
Non, il fait partie encore de la Driver Academy. Il l'a dit très clairement dans l'émission de Motors de RMC.
Voilà, mais c'est David Errigan qui aura le premier pilote de l'Académie. C'est maintenant David Errigan qui, on va dire, a succédé à Gilles Bianchi, qui maintenant qui va se concentrer vraiment sur la Formule Renault, normalement. Et David Errigan sera le premier pilote de réserve de la Scuderia. Il a même prévu de travailler dans le simulateur dans ce mois de février.
Ça n'a peut-être pas la même carrière que Luca Badoer. Hein. Peut-être ouvrir déjà... plus de portes.
Ouais, effectivement.
Ben, on avait eu le débat de savoir si c'était mieux la semaine passée. Mathieu, tu sais, on avait dit, est-ce que c'est mieux au fond des troisième pilotes Ferrari plutôt que d'aller dans une écurie du bas de tableau ou du milieu de tableau en tant que premier ou deuxième pilote. Bon, ici, la question ne se pose plus. Il reste troisième pilote à un degré moins, donc bon.
Ouais.
Avec peut-être plus de chances d'être titulaire dans les années à venir
Peut-être ou peut-être pas. Disons qu'avec plus de chances de rouler le vendredi. Ça, c'est déjà quand même une... Bah, ouais. Bah, par rapport à chez Ferrari, la question ne se pose même pas, mon cher ami GG.
Et justement, en parlant de Ferrari, transition, voilà.
Ah oui, effectivement.
Sur des transitions, sur des plateaux.
C'est vrai, excuse-moi, je viens de capter. C'est la grosse info de la journée. C'est la grosse info de la journée. Effectivement, il neige. C'est terrible, il neige à Maranello et à Fiorano. La présentation de la monoplace qui aurait dû avoir lieu demain à 12h a été annulée à cause de la neige. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la présentation se fait à l'intérieur, a priori, comme l'an dernier. Alors, peut-être pour l'accès au bâtiment, c'est compliqué, donc ils sont complètement annulés. Ce sera sur Internet, sur le site Internet de la Scuderia. Et le check-down prévu l'après-midi a été aussi annulé à Fiorano. Le circuit a été enneigé. On a pu voir beaucoup de photos hein, cette semaine. Mais bon, rien n'empêche le Ferrari d'avoir sa voiture. Hein, voilà, ils l'auront bien pour la saison. C'est tout ce qui compte. Si ce n'est, les journalistes accrédités ne pourront pas venir, peut-être non payer des frais de transport pour rien.
Ah, ils iront ski.
Ouais.
C'est plutôt plat là-bas.
Ah, et ben, ils font du ski alpin.
Voilà. Et pourquoi pas à la montagne Madonna di Campiglio, c'est pas loin.
Il n'y a rien à voir.
Merci. Et belle transition, mon cher Jérôme.
Ah bon?
Et oui, tu me salues sur un plateau, comme tu dis.
Allez, on peut trouver l'autre transition.
J'enchaîne une info.
Et oui, Italie, Kubica.
C'est magnifique. Effectivement, restant chez Ferrari. Notre ami Robert Kubica, on va fêter les 1 an. Enfin, on va célébrer tout.
C'est joli, ça. Ouais. Bah, allez, champagne, les amis, champagne.
On fête les 1 an de la gaffe de Chris.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. On fête les 1 an de la... Ouais, Et en plus, je l'ai réitéré avec... comme quoi, c'est bidon, parce que j'ai réitéré ma malchance avec Hamilton, ça n'a pas fonctionné. Enfin, le début de la saison n'a pas encore eu lieu.
Alors, je m'excuse de ce lapsus. On va célébrer, plus ou moins, on va célébrer les 1 an, le lundi
commémoré.
Non, on va célébrer mardi prochain, non, pardon, lundi prochain, lundi prochain, les 1 an du grave accident de Robert Kubica en rallye en Italie. C'était malheureusement dramatique. 1 an après, on le sait, ça va quand même bien mieux, hein, même s'il a rechuté il y a quelques semaines. La principale bonne nouvelle qu'on a pu lire, enfin, on n'a pas eu d'info officielle de la part de Robert Kubica ou de Ferrari, ou de Renault plutôt. Il aurait roulé dans une voiture boîte automatique de Renault Mégane la semaine dernière. Il aurait roulé, donc on sait déjà plutôt bien pour lui, au moins reprendre ses premières marques dans son volant. Et c'est une info importante, c'est qu'en juin prochain, c'est une info qui vient d'Italie, en juin prochain, il pourrait rouler avec la Ferrari F10 de 2010, avec une spécificité particulière, un moteur turbo, en juin prochain, dans une Formule 1. On rappelle la règle, hein, c'est que les pilotes ne peuvent pas rouler sur une voiture qui a moins de 2 ans. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour Robert Kubica, c'est dans 5 mois. Mais en tout cas, c'est un premier pas vers une rééducation pour le Polonais. On espère que ça pourra se faire, car vraiment, il nous manque encore, et c'est même un an après. On se rappelle, il y a un an, aux essais de Valencia, il avait signé le meilleur temps de la semaine sur sa Lotus Renault avant, malheureusement, de subir ce grave accident en rallye.
C'est malheureusement à cause de la phrase de Chris.
Mais oui, c'est ça. Parce que j'avais dit qu'il serait, je pense, sur le podium, où il ferait une saison extraordinaire, sauf blessure, et bon.
Il a fait une super saison, sur la fin 2011, sur cette S3.
Je suis même pas sûr que pendant un long moment, il ait pu utiliser la PS3. Mais enfin, ouais. J'ai compris que c'était une petite boutade, mais c'est vrai que...
J'ai une petite info.
C'est terrible.
Une petite info assez sympa, c'est notre ami Lusa, notre chef, qui me dit en privé... un Anglais a écouté l'émission et c'est tout simplement c'est le fils du constructeur d'Yves Muller de Chevrolet, ce serait le fils d'un des ingénieurs peut-être de l'équipe Chevrolet, c'est le fils donc Yves Muller, donc il a écouté grâce à Yves Muller et il a parlé en privé à notre ami Lusa, donc ça commence, on parle pas encore anglais.
Parle pour toi, Mathieu.
Chris, tu parles peut-être bien anglais. Moi, ça va à peu près, j'assure. On salue George Carter, notre ami britannique qui nous a écouté tout à l'heure. Un petit coucou. Il connaît Yvan Muller. Bon, c'est très sympa, c'est sympa. Voilà, ça vient de tomber.
Attends, si tu vas dans les paddocks, là, Mathieu, il va falloir.
On se donne rendez-vous tous ensemble, soit en Autriche, soit.
En
Espagne pour le meeting de WTCC.
Alors là, quand tu veux, on se parle en privé.
On donne rendez-vous à nos auditeurs et on y va.
Il y a un meeting.
Restons sérieux. Parce qu'on était sérieux, pas avec Yvan.
Parlons France Télévisions.
Voilà.
Mais si vous voulez organiser quelque chose en Espagne pour la course de WTCC, je pourrais éventuellement prévoir le coup et vous organiser quelque chose de sympa.
On pourrait imaginer
ça.
Et par contre, sérieusement, on le dit à l'antenne mais c'est vrai qu'on a déjà programmé avec quelques animateurs de l'émission, notamment Mathieu, on a déjà prévu, disons, peut-être des rencontres entre animateurs et auditeurs. C'est une idée que j'avais mise il y a quelques semaines même. Et qui est en train de faire son chemin dans mon esprit, dans l'esprit de certains, dont toi, Mathieu, je suppose. Donc voilà, imaginons qu'un jour, je boive un verre en terrasse avec Jérôme. Est-ce que c'est possible?
Moi, je l'ai fait à Bercy, c'est très sympa.
Mais en terrasse, il faisait froid.
C'est Jérôme qui a payé, non?
Non, chacun a payé son verre.
M'étonne pas de toi.
Monsieur,
je veux juste revenir, je pense que t'as pas assez appuyé. Sur le moteur, ce sera le moteur V6 qui sera utilisé en 2014 pour Ferrari.
Voilà, c'est
quand même la vision d'avenir.
C'est quand même important, je pense. Ils vont avoir les données déjà pour voir ce qui va et ce qui va pas.
Encore faut-il que Kubica puisse rouler un Ferrari pour l'instant. Ah. C'est encore une rumeur, plus ou moins en Italie, ça passe. On espère vraiment que ça pourra se faire pour le pilote polonais qui nous manque beaucoup. Ça va faire un an. On parle de F1 toujours, France Télévisions qui s'intéresse au rachat des droits de la Formule 1, c'est la blague du jour. C'est tout simplement une info à prendre avec les pincettes, car le directeur des sports, Daniel Bilalian, qui a
sacré Dani,
le grand commentateur de Stade 2 et du JT, étudie le cas, tout simplement, il regarde... Ah, la pompe à vélo de Jérôme.
Ah, ça mérite, excuse-moi.
Ça mérite la pompe à vélo de Jérôme. Donc France Télé se regarde un peu les droits, mais forcément, ils s'inquiètent sur le prix trop élevé du montant du contrat, comme tout le monde. Al Jazeera est en pole position, pour l'instant, c'est encore sujet à débat. Mais France Télé, avec leurs célèbres commentateurs, pourraient nous faire rêver.
Pour Formule 1. Montrer le paddock tel Jean-Louis Moncey, Danny Brognard.
Oui.
avec Nelson Montfort également.
Donc on va vite s'en aller en Allemagne ou en Angleterre aussi par la Sky Sports.
Mais non, mais ça va être très sympa. Au moins, c'est vrai que le seul avantage chez France Télévisions, ce serait gratuit.
Il n'y a pas de pub peut-être aussi. Il y a un célèbre bruit.
Ouais. Jérôme est revenu avec
public.
Ses.
Action du public.
Ah.
Jérôme est revenu avec ses petits bruitages. Heureusement qu'il ne les a pas sortis tout à l'heure pendant l'interview d'Yvan Miller, sinon j'aurais sorti les griffes, moi. Mais.
Allez, comme disait Ski Jérôme, je crois, c'est. Surtout que ce serait gratuit, parce que ce serait sur Al Jazeera ou Canal Plus, on serait obligé de payer pour voir la Formule 1.
Parce qu'encore payer 4 euros par mois pour regarder les essais, bon, ça c'est mon délire de fan. Mais de là, de payer pour regarder le Grand Prix, je pense que ça va vraiment faire du mal à ce sport en France qui a un petit problème de popularité. Et il faudrait pas lui mettre ce dernier coup de poignard dans le dos, ça lui ferait très mal.
Important, Mathieu, je n'aime pas trop interférer dans la politique, surtout dans cette émission, disons, ça c'est vrai. Parce que je sentais ton sarcasme arriver, je m'intéresse à la politique, mais pas le jeudi soir. Il y a eu une vidéo qui a circulé venant de pro Nicolas Sarkozyste et de pro Marine Le Peniste. C'est important de le dire parce que c'est quand même important de le dire. Donc j'ai mené ma petite enquête. Une vidéo datant d'il y a quelques années. Une vidéo datant
de juin 2009.
Exactement. Parce que ça, on parle de la suspension de Renault.
C'est une vidéo qui date de presque 3 ans, donc, et dans laquelle François Hollande conteste le candidat à l'élection présidentielle, favori des sondages de la présidentielle 2012 de République française, conteste l'utilité de la Formule 1. Alors, ce n'est pas dans son programme de supprimer la Formule 1. Et je me suis renseigné sur le programme sportif. Il n'y a pas de suppression de Formule 1. Et donc, il n'interférera pas négativement, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias sur la suppression de la Formule 1.
Mais c'est facile de reprendre une phrase, un sentiment personnel d'un homme qui, à l'époque, n'était pas en campagne, et de la changer de... Bien évidemment qu'il n'irait pas à l'encontre. Mais... Ça ferait du bien à l'image de la France dans le monde.
Non, mais c'est important de le préciser. Il y a certaines personnes qui ont dit s'il arrive au pouvoir, il va supprimer le Grand Prix de France.
Non, certains l'avaient attendu, c'est sur Facebook, il n'a pas trop monté son intelligence. Bref, ouais. Next.
Allez, voilà, c'est une polémique qui est,
voilà, ce n'est
qui
pas
est
vrai.
Visible sur le net.
Et j'ajoute également que concernant France Télévisions, étant donné que le chef d'État français a le pouvoir de nominer et de changer la direction de France Télévisions, il est évident que si la Formule 1 revient sur France Télévisions, il n'y aura pas donc du coup de censure à l'Élysée vis-à-vis
de la Formule 1. Si elle vient tout court, elle n'a jamais été...
Oui, c'est ça. Ah. Non, mais je veux dire, s'il y a de la Formule 1 sur France Télévisions, ça voudra dire de facto que François Hollande, ou que le futur président, ou que la future présidente, est pour la Formule 1.
Ça c'est encore compliqué. Bon,
non, mais c'est important de le préciser.
Ça serait marrant sur France Télévisions, ça serait très marrant pour revenir un peu sur le sport. Mais ça pourrait être marrant, parce qu'on aurait un super dispositif, comme on aurait pourquoi pas les essais sur France 4.
Ça serait drôle.
Les qualifs sur France 4, le Grand Prix sur France 2. Si jamais, par exemple, imaginons qu'il y a un Grand Prix à 20h, et ben bam, on bascule sur France 3.
Non, c'est bien.
Ça serait assez flexible, ce serait sympa.
Et c'est la seule bonne nouvelle avec la pub, moins de pub, ça c'est vrai.
Parce que les commentateurs, ce serait quand même quelque chose. Hein.
Non, mais même, il y aurait plus d'excuses, par exemple, Grand Prix du Canada, il y a un Grand Prix entre 19 et 21h, ben bam, on bascule sur la 3, on vient sur la 2. Ce serait un bel avantage, maintenant.
Et vous, en France, contrairement à il y a quelques années, maintenant, c'est bon, vous avez toutes les chaînes de France Télévisions, parce que je me souviens, j'étais venu en France, souvent en France, mais il y a quelques années, j'avais été dans un foyer français où ils n'avaient pas toutes les chaînes.
Mais on n'avait pas France 4. Il y a des gens qui n'avaient pas la TNT, n'avaient pas que ça, France 4.
Et ça, c'est énorme, parce que je leur ai dit, mais moi, chez moi, en Belgique, j'ai toutes les chaînes de France Télévisions, donc du coup, je trouvais ça assez...
C'était une question d'équipement. France 4 est une chaîne qui venait d'être créée, et donc il fallait que les gens s'adaptent à la TNT qui venait d'être lancée en France 4.
D'accord, c'est génial. Donc pourquoi pas.
J'espère que tu as France O aussi.
J'ai France O, moi oui, j'ai la télé analogique depuis 2-3 ans déjà. Donc, oui.
France 1.
Nos amis. Oui, France 1, je ne sais pas ce que c'est sur Internet.
C'est que chez eux, c'est que.
Ah, ça par contre, j'ai pas France 1, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas France 1.
Allez, on va enchaîner, messieurs, là, on va terminer sur quelques infos. Jedo van der Gard, le néerlandais, qui aurait été en pole pour HRT pour la deuxième place, il devrait peut-être aller signer un contrat avec Caterham en poste de troisième pilote. On en a parlé cette semaine sur Internet. Donc Van der Gard qui pourrait aller chez Lotus, chez Caterham, ça pourrait ouvrir la porte à pourquoi pas Yuzi qui pourrait revenir favori, ou Vitaly Petrov, qui est soutenu par Bernie Ecclestone, ou je sais pas, je me suis dit dans ma tête, imaginons Nathanaël Berton, imaginons Nathanaël Berton chez HRT qui nous cacherait ça. Et en rappel, il a fait les essais avec l'équipe à Abu Dhabi en décembre dernier. Non, rassurons-nous, normalement, soit Petrov, soit Luzzi, ça pourrait être le match à suivre dans les prochaines semaines. Et on va terminer pour faire plaisir à Simon sur le chat. On va parler un peu de 3.5 et de Formule et de GP2. Tout simplement, un petit coucou à notre ami Paul Louchatin qui était avec nous en novembre dernier. Il a prolongé son contrat avec l'équipe Tech One en Formule Renault 2.0. Il vise le titre cette année. Hein, on est de tout cœur avec lui. Son coéquipier, c'est le champion de Formule 4 de l'Autosport Academy, Mathieu Vaxivière. Donc c'est un du pilote assez costaud a priori, donc ils peuvent nous faire une très belle saison. Deux infos en Formule Renault 3.5, c'est Robin Fringe, le néerlandais champion de 2.0 en 2011, a signé avec Fortec Motorsports pour la saison 2012. Et Alexander Rossi, l'américain, il aurait pu être en GP2, finalement il ne sera que chez Arden Caterham, équipe de Christian Horner, qui en 3.5 aussi, Alexander Rossi, le rookie de l'an dernier, un très très grand pilote américain, l'espoir hein, du pays des États-Unis. Donc Alexander Rossi en 3.5 avec Arden, et on espère pour lui quand même qu'il puisse faire de très belles choses, et pourquoi pas accéder prochainement en GP2, car il le mérite, hein, c'est un très très bon pilote, et la F1 l'attend peut-être avec les deux Grands Prix qu'on aura aux États-Unis à partir de 2013.
Pardon, voilà. J'ai oublié de couper mon micro. Je suis désolé. Je viens d'apprendre que j'ai loupé un débat politique ce soir. Ouais, c'est pas grave. J'ai oublié de l'enregistrer. C'est pas grave. Voilà. J'expose ma vie, j'étale ma vie, mais en même temps, comme l'actualité n'est pas très riche, je me permets quelques petites faiblesses. Je m'excuse, chers amis auditeurs. Je vais fermer mon micro et je me barre. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis déjà au revoir.
Deux dernières infos. Pour terminer, les prochaines monoplaces à se dévoiler, Force India demain et Ferrari, donc assez important. Hein, les deux.
Ça dépend s'il neige sur les émetteurs internet.
Ah oui, bon, ça, malheureusement, ils le feront en privé, entre eux dans l'équipe, à Maranello. Le 6 février, ce sera pour Red Bull, le 6 février, lundi, sur internet.
T'as des notes quand même, il y a deux. Mais combien d'écuries qui prennent sur internet, monsieur?
Alors, on a deux. 3 ou 4, c'est
plus exactement. Et quelques années, ça aurait été inimaginable.
Forcément.
Ça dénote quand même un manque de budget criant chez les équipes qui peuvent faire. Qu'elle montrait la monoplace sur Internet que de faire des grandes réceptions avec buffet, démonstrations, ça dénote qu'une équipe comme Red Bull qui fait une économie sur la présentation, ça me semble quand même.
Est-ce que tu t'en rappelles, c'était en 2008, la Force India avait été dévoilée, c'était à Abu Dhabi ou en 2009. Sur un yacht, c'était avec le yacht de Monsieur Malia, plus une réception gigantesque. Et là, ce sera à Silverstone.
En Inde.
Oui, ou en Inde, ou l'an dernier.
En Inde.
Peut-être, en Inde peut-être. Et là, cette année, ce sera à Silverstone, dans l'écurie, dans l'usine. Voilà,
ça montre quand même qu'il y a moins de budget en Formule 1 que les autres années, ou en tout cas, les équipes souhaitent le 10 millions au maximum.
C'est sûr. Pour terminer, Toro Rosso aussi se dévoilera le 6 février à Jerez. En plus de Sauber, en plus de Lotus et Sauber, je rappelle, ce sera le lundi, la veille du début des essais, et mardi prochain, 7 février, donc là, Williams se montrera, et ensuite, nous aurons les débuts des essais hivernaux. On va suivre ça avec intérêt, car tout simplement, on va en parler jeudi prochain, ce sera une page spéciale Formule 1, avec un petit mot de MotoGP, car ça va reprendre. Les essais à Sepang en Malaisie ont commencé. Tout d'abord, un petit mot, c'est Casey Stoner est devant tout le monde. Il est devant tout le monde, hein. Léonda devrait être au rendez-vous. Et pour conclure l'émission, le sondage, je vous rappelle, hein, chaque mois maintenant, le top et le flop du mois. En flop, mois de janvier, Yari Matilatvala a recueilli 5 voix, Robbie Gordon 4 voix, tout comme Nasser Alatia, mais le grand flop du mois de janvier se nomme Mikko Hirvonen, avec 8 votes. Mikko Hirvonen a été donc le grand perdant de ce mois de janvier pour vous, chers auditeurs, et pour nous aussi. Et chez les tops, Alors là, c'est pas l'unanimité, mais c'est pas loin. Hein, bien sûr, la victoire haut la main de Sébastien Loeb, 19 votes.
Victoire poutinienne.
Voilà, si tu veux. Cyril Després avec 4 votes. Suivent Dany Sordo, 2 votes. Et Ogier et Peter Ansel avec 1 vote chacun. Donc finalement, c'est Citroën qui remporte tous les suffrages. Sébastien Loeb en top et Nicolas Vanen en flop.
Ça, bon, quand même qu'il y a vraiment, il y avait vraiment que du rallye surtout sur cette période.
Et non, surtout c'est ce qui démontre, c'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière, que chez Citroën on le sait, hein, la hiérarchie déjà faite, ça se pourrait bien.
C'est bien mon top du mois de février, bon, ça sera évolué.
Ça c'est une belle fin de d'émission, cher Jérôme.
Je pense. Et mon club ce sera Chris qui est parti avant la fin de l'émission.
Ouais. Non, mais pour conclure, car c'est 23 heures tout rond, ben, j'ai envie de dire quelque chose. On a été tout simplement exceptionnel ce soir, mais beaucoup moins qu'Yvan Muller, qui fut vraiment très sympa, très ouvert, très libre d'esprit. Et Sébastien, je vais le noter pour conclure. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin qui concerne l'endurance ou les 24 heures du Mans. Je n'ai pas eu le temps de le rajouter au programme. Sébastien, je te laisse. Le mot de la fin, alors.
Oui, mais c'est pour faire un petit coup de gueule. Vous savez, quand a été publiée aujourd'hui la liste des équipages, des écuries nominées pour les 24 heures du Mans, et on constate que Audi va naturellement arriver on s'y attendait, et c'était prévu l'absence des Peugeot, qui nous fait toujours très mal au cœur. Audi arrive en force avec 4 voitures, dont 2 voitures hybrides, pour ces 24 heures du Mans, Toyota également avec ses 2 modèles hybrides. Et mon petit coup de gueule concerne la non-nomination d'une petite écurie helvétique, pour ne pas être chauvin, qui est le Hop Racing. Le Hop Racing, c'est la première écurie à avoir aligné une voiture justement de technologie hybride l'année dernière. Et là, j'ai un peu gros sur la patate qu'elle ne soit pas nominée pour cette année. Elle fait partie de la liste des suppléants. Alors que c'est vraiment une écurie qui a apporté un plus et qui a été la première à croire en cette possibilité offerte par le règlement de la CO. Voilà.
Et je veux juste ajouter que Pescarolo a engagé Bourdais et Milation pour les 6 heures de Francorchamps et les 24 heures du Mans.
Absolument. Sébastien.
Alors du coup, ils débrouillent comment? Vous avez la réponse? Ils débrouillent comment toutes ces équipes sans Peugeot alors?
Ben, parce qu'un monoplace,
ils engagent.
Parce qu'un Renault a 2 monoplaces, une faite chez elle, et une autre, c'est une Dôme Jude.
C'est une voiture louée, quoi.
Voilà, mais c'est pas. Enfin, voilà, ils louent, forcément, c'est compliqué, il faut louer des voitures un peu à droite et à gauche, dans des équipes moins huppées que Peugeot.
Alors que c'est un drame s'ils les cassent, quoi, par rapport à.
Oui.
Comme s'il ne la plante pas. Oui, enfin bon, ouais.
Okay. Ouais, c'est ça. Donc, le message est passé. Sébastien.
Non, ce qui est surtout rageant, c'est de savoir que c'est des Peugeot, elles sont prêtes, elles vont même rouler sur un circuit, je crois, demain,
en
guise d'adieu, et j'arrive pas à imaginer que ces voitures qui sont prêtes, qui ont été développées, etc., n'aient pas au moins été remises à des teams privés, comme un Pescarolo, je ne sais qui, pour les faire rouler. Sous un autre nom, les débadgés, ça s'est déjà vu ailleurs, mais tout ça, c'est vraiment un gâchis terrible.
Absolument. Le message, c'est bon, cette fois, messieurs, on va devoir se quitter. Ce fut une des meilleures émissions, peut-être la meilleure émission de l'année, avec Tom Dillman qui était avec nous, on s'en rappelle, le 15 janvier, ou à peu près environ. C'était peut-être le 12 janvier, me semble, ou le 13.
C'est gentil que tu te rappelles du 15 janvier, Mathieu, ça m'honore beaucoup. Je comptais me garder le silence, mais comme tu m'as fait ces dédicaces.
Ah, c'est ton anniversaire.
Mais oui, c'est pour ça. Et moi, j'ai une petite demande, puisque c'était l'anniversaire d'un de nos meilleurs consultants, tout simplement, Olivier.
Le meilleur.
Bah, le meilleur, pourquoi pas. Y a match quand même, hein. Mais allez, le meilleur. L'un de meilleurs, c'est quand même vrai, mais le meilleur, je ne sais pas. Le meilleur, ça pourrait être Jérôme, par exemple.
Non.
Non, il n'est pas consultant, il est animateur, voyons. Alors, je voudrais que chacun, tous ensemble, nous entendions un superbe hommage à Olivier en lui souhaitant le meilleur des anniversaires avec un peu de retard. À savoir, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Olivier. Joyeux anniversaire, bravo!
Merci. Non, mais après, il n'y a pas de consultant les meilleurs. On forme une superbe équipe, je pense, et j'espère continuer de longues années avec vous.
C'est beau.
T'es bien, Olivier. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, celle-là.
Le meilleur consultant de l'émission, je trouve qu'il était dans la première émission. Il est plus présent.
On dira pas qui, mais on le salue quand même.
Bah, il y a match entre la première. Ah non, d'accord. Bah, il y avait match entre Yannick et Atef. Hein.
La fête, c'est la fête ce soir. Allez, je pense qu'il est là pour nous de se quitter.
Oui. Oui, en faisant juste comme ça, on redevient sérieux. En faisant quelques annonces, il n'y aura pas de match de Beauvais ce week-end, puisque on l'a dit en prélude de cette émission dans le Flashport avec mon ami Xavier. Nous avons annoncé effectivement que plusieurs matchs nationaux, dont celui de l'AS Beauvaise, étaient reportés ce week-end. Et il y a les matchs de Ligue 2.
C'est l'AS Picard que vous ennuyez. Lens Amiens, samedi, à 14h45.
Lens Amiens, d'accord.
Allez voir, très beau choc avec Amiens, 20e de Ligue 2.
Sinon, les prochains rendez-vous sur la radio, ce sera lundi avec le Flashport, suivi en soirée donc du Handé, l'émission de handball. Où avec Luzari, bien évidemment, nous refaisons l'actualité du handball, notamment du handball français qui ne vit pas bien en ce moment. Je vous donne rendez-vous sinon mardi, mais je crois que mardi, il n'y aura que le débrief, puisque nous ne serons pas là avec le Vélo Tour, ce sera dans une semaine.
Et un invité, hein, dans deux semaines.
Ouais. Dans 10 jours, en fait.
Le coureur de Team Europe Car, il sera chez lui cette fois, il pourra nous recevoir. Enfin, on pourra le recevoir.
Ça, ce sera donc dans le Vélo Tour du mardi 14 février, me semble-t-il.
Oui, bah, Saint-Valentin, on l'a
voilà,
vu.
C'est pour ça que je l'ai retenu. Donc voilà, donc lundi, il y aura donc le Handé, mardi, le débrief du National, avec, il y aura un invité du National, un joueur du National qui sera là mardi dans l'émission. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, mercredi pour Liberté pour les auditeurs à 20h30, actualité du football. Et jeudi prochain, évidemment, le Motor Show, les prochaines éditions. Voilà donc pour le petit programme de ces 7 prochains jours sur RTS.
Et oui, jeudi prochain, oui, Olivier.
Ouais, non, juste le programme, il y a l'Enduropal du Touquet ce week-end, dimanche donc, et ça suit sur France 3 Nord-Pas-de-Calais ou Motors TV.
Eh ben, on sera au rendez-vous.
J'irai spécialement du côté de Lille pour
ça. Ah bah oui, au Touquet, bah oui, Jérôme, t'es pas loin.
Ah allez, c'est pas...
merci. Ouais, alors si tu veux.
Le 30, hein.
Ouais. Allez, juste pour dire, jeudi prochain, ce sera 98% de fin, je pense. Quand même, les essais à GRS, les premiers enseignements. Bien sûr, ne pas faire pronostic, hein, il n'est jamais trop tard ou trop tôt. Chris, attention, pas
de non.
Chris, hein,
je ne ferai aucun pronostic la semaine prochaine. C'était justement la même période que j'ai fait des pronostics. Je n'en ferai plus aucun, promis. Ça va être difficile, hein, à moi. Sur McLaren, peut-être que je m'autoriserai à faire un petit prono.
Voilà. Donc,
je sens que Lewis Hamilton va être champion du monde, côté prono.
Oula, peut-être plus Button avait plus de chance, peut-être.
Souvenez-vous qu'une année, il y a même une Prost Grand Prix qui a gagné l'intersaison hivernale.
Ah, hein.
97?
Non. C'est pas l'année, mais ils avaient réussi le meilleur temps des essais hivernaux avant de se vautrer lamentablement durant toute la saison.
Léonasme.
Oui. Une faute de dernière minute, c'est que Eurosport n'enverra pas d'équipe sur le Rallye de Suède. Donc, on n'aura pas d'image du Rallye de Suède. N'aura rien d'officiel, quoi. Ce sera vraiment quelques images par-ci par-là.
Et oui, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Il est temps de se quitter. C'est l'heure. Je remercie tout d'abord Chris, comme d'habitude, qui fut exceptionnel, à la hauteur, avec un talent irréprochable. On adore la Belgique et c'est parce qu'on adore Chris, tout simplement. Chris, rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, bonne fin de semaine, bonne soirée à toi. Prends soin de toi et bisous.
Bah, merci à toi. Merci aussi aux éditeurs qui furent très nombreux, surtout la première heure, j'ai pas compris pourquoi. Ironie, bien sûr, mais vraiment merci à eux et ils ont été très partagés. Ils ont été très actifs sur le chat. Je remercie bien sûr mes consultants. J'étais très content de retrouver Sébastien qui souhaite une bonne année. J'avais pas pu lui souhaiter.
On est en février.
Ouais, mais je m'en fous, moi. Moi, je m'autorise tout, et Olivier et Michel qui furent excellents comme d'habitude, et bien sûr mon petit GG national. Merci à toi, Mathieu. Tu l'as dit, on se retrouvera donc jeudi prochain. Nous serons le 9 février et on aura une émission 98% F1, j'ai noté. 98%. Donc, je prendrai le chronomètre pour vérifier. Et juste, je voudrais dédier cette émission à Luzanne, le patron de la radio, à notre ami Jari, qui nous a bien aidé ce soir et qui n'a pas pour le moment une santé exceptionnelle. On pense fort à lui.
Et il m'a sauvé la vie à 2 heures du début de l'émission.
Ouais, mais je te l'aurais sauvé aussi, t'inquiète pas.
Oui, bien sûr, je sais bien. Tu es mon sauveur sauveur
radiophonique.
tu as toujours été mon sauveur, de toute façon, même cet été pour le stage. Donc voilà, Chris, tu es indispensable. Je remercie Jérôme. Jérôme, je te souhaite une bonne soirée, ma pompe à vélo, et à bon week-end, à jeudi prochain, et d'ici là, profite de la vie à Paris, et couvre-toi bien.
Oui, bien sûr, parce qu'il fait froid le matin qu'on part. Voilà. Bon, bah, écoutez, non, juste pour revenir sur Yvan Muller, ça a été très, très, très impressionnant. Je tiens à dire quand même de côtoyer un homme comme ça, même si c'est un pilote WTCC, et là, vous avez pu remarquer comme ce soir, j'ai fermé ma gueule. Non, c'était très impressionnant, très.
C'est vrai que ça, au début, j'étais assez incisif, mais bon.
Justement, j'ai appris à connaître un peu. Oui, et Mathieu, justement, en parlera, mais je serais très content qu'on se fasse un petit week-end tous ensemble. Un week-end sur le site du WTTC. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeudi soir et à jeudi prochain.
Et moi de même, bon, soir.
Il est malade.
Merci à Michel qui fut très bon, bien sûr, à l'habitude. Bonne soirée à toi, Michel.